podcast Altaride. Ici, nous discutons de jeux de rôle et des cultures de l'imaginaire en parallèle de la revue Rôliste mensuelle des chroniques d'Altaride. Vous trouverez les notes et les liens accompagnant ce podcast sur sandrone.fr.
Donc, épisode 7 des Voix d'Altaride. Bonjour à tous. Alors, avec nous ce soir, qui avons-nous ? Sandra ?
Il paraît.
Xavier.
Bonjour, bonjour.
Benoît.
Salut.
Et un nouveau venu, Willem.
Salut.
Eh bien écoute, on va commencer par se présenter, et en tout cas présenter Willem qui jusque-là n'a pas participé au podcast, en tout cas pas en direct. Alors qui es-tu, Willem ?
Qui est Willem ? Écoute, Willem est un ami de Julien à la base.
Tout à fait.
Enfin, plein d'autres choses à la base, hein, mais un rôliste aussi, hein, vu que c'est un podcast sur le jeu de rôle, tant qu'à faire.
Ouais.
J'habite à Perpignan depuis peu, et j'ai redéménagé à Perpignan parce que j'ai de la famille ici. Après avoir vadrouillé en dehors de la France pendant une dizaine d'années, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu en Asie, à Singapour, en Malaisie, en Chine, à Hong Kong. Et je suis revenu à la fin de l'année dernière, je me suis installé à Perpignan et... J'avais fait un petit hiatus pendant quelques années, pas trop de jeux de rôle, hein. Je faisais un peu de jeux, du jeu de plateau, je me tenais au courant, puis là je m'y suis remis, et voilà. Sinon je bosse en publicité marketing, je suis conseiller en stratégie de communication, voilà.
Voilà, je pense que je ne vais pas donner la définition que tu m'as donnée de ce métier-là, mais...
Justement, c'est laissé à l'imaginaire, c'est comme le jeu de rôle.
Voilà, donc... Ce soir, on va vous parler, on verra de quoi, mais à la base, on va vous parler d'attrition. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attrition ? La définition que j'ai retenue pour ce podcast. Il n'y a plus de bière, voilà, ça c'est Xavier. C'est la diminution progressive des ressources disponibles pour un personnage de jeu de rôle et la façon dont ça va intervenir dans les parties. Et en discutant un petit peu, Willem a soulevé un point très très intéressant qui était l'attrition autour de la table de jeu et pas à l'intérieur du jeu, c'est-à-dire parler des campagnes qui s'épuisent petit à petit.
Faute de joueurs,
de disponibilité, etc. Alors avant de commencer, on va faire notre petit tour de table habituel. Quoi de neuf au niveau jeu de rôle ? Quoi de neuf dans vos différentes activités rôlistes récentes ? Benoît.
Activité rôliste récente, là en fait je suis en plein dans le bouclage des chroniques d'Altaride. Donc on est sur le numéro de la misère, numéro 37 si je ne m'abuse, ça commence à chiffrer. Voilà, donc j'ai mis en page 75 pages, ça va parler de plein de choses intéressantes. Et puis je sais pas trop quoi dire d'autre. Au niveau jeu de rôle, j'ai pas trop touché à Fils des siècles, mon jeu pour l'instant, depuis un petit moment, mais je vais m'y remettre. Là, il y a la mise à jour 2.2 qui est à 99% terminée, en fait. En gros, j'ai plus qu'à l'envoyer et le mettre sur le site. Et quelques personnes à Geekopolis déjà ont pu obtenir la version papier de la mise à jour que je donne donc en même temps que le livre de règles quand les gens l'achètent, enfin de la bêta en fait, le livret d'initiation. Voilà un peu où j'en suis et je prépare éventuellement des playtests prochainement région parisienne. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter pour tester le jeu en cours de création Fils des siècles, voilà.
Ok, bah je te remercie. Xavier ?
Alors moi, c'est la dernière ligne droite aussi. Ce week-end, j'interviens au colloque universitaire sur les 40 ans du jeu de rôle à Paris 13, Paris 3. Et du coup, je peaufine un peu les bêtises que je vais raconter là-bas. Je vais surtout essayer de pas trop en dire des bêtises. Et entre le moment où j'ai fait la proposition de communication et aujourd'hui, il se trouve que plein de gens ont écrit plein de trucs dans la blogosphère... Et du coup, ça nécessite un peu de retravailler, de remettre tout ça en forme et de revoir peut-être un petit peu à la baisse les avis un peu tranchés que j'avais en rentrant dans cette thématique.
Ok, sachant que il est fort probable que le colloque soit passé quand je mettrai cet épisode en ligne, mais que on fera un retour dessus lors du prochain podcast.
Super.
Voilà. Sandra.
Alors, pour ma part, je reviens de Geekopolis,
oui.
Donc qui était une convention qui s'est déroulée fin mai, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
C'est peut-être une erreur de date.
24, 25 mai, je crois.
Oui, il me semble.
Ou 23, 24, je ne sais plus.
J'ai pu pu avec le groupe et l'association Opale ainsi que les autres associations ludiques présentes participer à l'espace jeu de rôle où j'ai fait énormément d'initiations pour enfants puisque j'ai animé un atelier enfant. J'ai pu apprécier d'avoir des enfants de 5-6 ans, que ce soit des fils de rôlistes, des filles de rôlistes ou des enfants de parents non rôlistes, leur faire découvrir le jeu de rôle. Et ensuite, je poursuis une campagne avec deux non-voyants à la table. Une personne est non-voyante de naissance et son conjoint l'est devenu. Donc c'est assez difficile au début à mettre en œuvre au niveau de la fiche perso puisque je ne dispose pas d'imprimante braille ou autre. Donc je suis rentrée en contact avec une association pour essayer de pouvoir mettre ceci au point. Et là, au fur et à mesure, on a des trucs et astuces, des techniques qui se mettent en place comme pour les caractéristiques et les points de vie, utiliser des bouliers pour compter les caractéristiques ou les points de vie ou les compétences basiques.
Ok. Alors Willem, toi, quoi de neuf ?
Bah écoute, pas mal de trucs. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait pas longtemps que j'ai emménagé à Perpignan. Donc du coup, côté jeu de rôle, je me suis présenté, j'ai rejoint la sauce locale qui s'appelle la Guilde du Fantastique. Mmh. Et il y a deux semaines, enfin pas ce week-end-là, celui d'avant, il y avait un événement qui s'appelle Perpijeu, donc des jeux, pas mal d'initiations avec les enfants pendant l'après-midi. Et la nuit du jeu, le soir, qui était une nuit de jeu de rôle organisée par la SOS, où j'ai maîtrisé une partie de Unknown Armies. Et les joueurs ont énormément apprécié cette introduction, initiation au coup de vent. Et du coup, maintenant, bah, j'ai un groupe et une nouvelle tablée qui se prépare. On a fait un brunch chez moi hier. On a passé l'après-midi sur la terrasse à discuter des personnages, à créer tous les concepts pour tous les persos. Et je suis en train d'écrire toute la campagne et tout le scénar pour une campagne de Unknown Armies sur une nouvelle tablée à Perpignan. Donc voilà.
Super.
Ouais, assez excitant. Ça va être chouette, je crois. Ça va être vraiment chouette.
Et puis surtout, pour toi, c'est vraiment un retour vers le jeu de rôle parce que tu avais quand même arrêté quelques années, comme tu nous disais. Hein.
Ouais, c'est ça. J'avais arrêté quelques années, comme d'habitude, tu vois. J'ai mes bouquins, je me tiens au courant par des amis, mais j'avais pas de tablée régulière. J'avais une partie de temps en temps, et en plus, ça fait très très longtemps que j'avais envie de faire vraiment une campagne sur ce jeu. Et c'est la première fois que j'ai l'opportunité de faire une campagne. J'ai fait des one shot avant, mais pas de campagne en fait.
Bah écoute, je pense que t'auras l'opportunité de nous en reparler.
Ouais.
Alors de mon côté, depuis le dernier numéro des Voix d'Altaride, j'ai eu l'occasion d'aller en convention, d'enregistrer un certain nombre d'interviews d'ailleurs entre Geekopolis et les Elfiques. C'était très très sympa. Au niveau jeu de rôle, les parties habituelles, rien de nouveau, aucune partie qui a démarré ces derniers temps. À Geekopolis, avec Morgane, on a donc fait une table ronde sur l'adaptation de romans en jeu de rôle qui s'est plutôt très bien passée. Le seul petit regret, c'est qu'on avait quelques GNistes dans la salle qui s'attendaient à ce qu'on parle un peu de GN, et malheureusement, notre expérience en GN à Morgane et à moi est relativement limitée, donc on n'a pas pu vraiment apporter de réponse de ce point de vue-là. Mais je prévois pour un prochain numéro des Voix d'Altaride de parler justement de GN, de la scénarisation de GN, de toute l'expérience qu'on peut avoir de ce point de vue-là. Et on aura une invitée spéciale qui va pouvoir nous en parler, qui a déjà pas mal pratiqué l'écriture de background de GN et la pratique du GN en général. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on veut commencer à parler un petit peu de notre thème. Alors déjà, pourquoi le thème de l'attrition ? Le numéro actuel des Chroniques d'Altaride, comme Benoît l'a dit tout à l'heure, c'est sur le thème de la misère. Et alors bon, je suis peut-être quelqu'un d'un peu bizarre, mais la première chose qui m'est venue en tête du point de vue jeu de rôle vis-à-vis de la misère, c'est cette idée d'attrition, c'est-à-dire de diminution progressive des ressources disponibles pour un personnage, comme je définissais tout à l'heure. Et cette approche est finalement très présente en jeu de rôle, et ça implique et ça entraîne beaucoup de choses de ce point de vue-là. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui veut commencer à évoquer ce sujet-là.
Moi, j'ai plus que 537 charges dans ma baguette de désintégration. Je ne sais pas si je vais terminer le scénar, Julien.
Bah, Donjons et Dragons, on pourra en parler.
C'est présent dans énormément de formats narratifs, au final, pour créer des challenges pour tes personnages, en fait, aussi, non ?
Oui, tout à fait, oui.
C'est vrai que c'est un moteur dans l'histoire, c'est-à-dire que quand les joueurs n'ont rien, il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose pour s'en sortir, et donc réduire systématiquement tout ce qu'ils ont à peu près à zéro, eh bien c'est un petit peu leur botter les fesses pour qu'ils sortent de leur appart et qu'ils aillent tenter de faire quelque chose ou au moins de recharger les batteries, quoi.
On en parlait hier en fait avec Sophie, donc qui est conteuse et qui était là. Enfin, comme elle pensait venir, on a un peu discuté de cet aspect-là. Et du coup, elle, c'est pour ça que je rebondis, Willem, tu parlais du côté narratif. Donc, dans les contes, elle m'évoquait le fait que l'attrition, enfin, en tout cas, ce phénomène de manque est le moteur de beaucoup d'histoires et également le mécanisme de rebondissement des histoires, puisque beaucoup de ces contes vont passer par un moment de sacrifice d'un élément. Elle me citait un personnage, par exemple, qui accepte de se faire amputer, par exemple, pour pouvoir continuer à travers sa quête, à avancer, donner une partie de lui-même en sacrifice. Et du coup, en jeu de rôle, ça se répercute sans doute par des mécaniques de jeu au niveau des voilà, on va sacrifier des points d'héroïsme, des choses comme ça. Ça va pas forcément aller jusqu'au côté un peu ultime qui est posé dans le système du conte, mais la logique se répercute assez bien, je pense.
Ok. Oui, puisque tu parles de points d'héroïsme, on peut rebondir un petit peu sur différents systèmes de jeu qui utilisent cette notion-là. Alors, je pense qu'on parlera un petit peu de Donjons et Dragons tout à l'heure, puisque tu commençais à l'évoquer un petit peu, Xavier, avec ton histoire de baguette de désintégration.
Moi, je suis pas du genre à évoquer Donjons et Dragons, moi.
Non, jamais, c'est pas du tout ton genre. Mais j'aimerais bien parler un peu d'autres jeux, puisqu'on en a pas mal parlé ces derniers temps, et notamment de parler de jeux qui sont peut-être un peu plus récents. Alors, sans être le plus, comment dire, novateur, le plus hype, le plus indé des jeux, etc. Mais
Tunnels and Trolls.
Voilà, on pourrait parler de ça, ouais. Non, moi, je voulais vous parler de... Alors, j'ai toute une liste de jeux qui m'intéressent de ce point de vue-là. Le premier qui m'est venu en tête. Alors, Tunnels and Trolls, c'est le nom du jeu. Ça veut pas dire que tu dois rester troll ensuite, hein.
Je te rappelle que Morgan m'a chargé de faire de l'humour ce soir et d'essayer de
chargé de faire des blagues de cul. Je vois pas trop où est-ce que tu veux en venir avec cette histoire de troll et de tunnel. Bon, en cherchant un peu, il y a peut-être moyen.
C'est une progression scénaristique qui m'amènera d'un humour troupier vers quelque chose de fin et de subtil en fin de podcast, peut-être.
Peut-être.
Dans Paranoia, par exemple, il y a de l'attrition parce que t'as que 6 vies.
Ah, c'est un très bon exemple auquel je n'avais pas pensé, Paranoia, tout à fait. Alors moi je voulais parler, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je vais reparler de deux systèmes. Le premier système qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est le système Fate. C'est un peu un de mes systèmes vers lequel je me tourne régulièrement ces derniers temps. Et le système Fate, il a une mécanique d'attrition, une mécanique de gestion des ressources peut-être plus, qui est assez intéressante. Dans le jeu, vous avez des points de destin qui vont vous permettre de globalement de faire des choses cool, quoi. Qui vont vous permettre de utiliser les aspects de votre personnage, donc les traits de vos personnages, les petites phrases qui le décrivent le mieux, pour renforcer la qualité, pour être sûr de réussir à réaliser les actions que vous voulez réaliser. Ces points de destin, ils sont utilisés. Et quand ils sont utilisés, globalement, vous ne pouvez plus, vous n'êtes plus capable de faire ces actions-là. Donc, le jeu vous pousse finalement à accepter de mettre en scène vos défauts ou la partie négative de vos aspects pour regagner ces points de destin. Et finalement, ça crée un cercle qu'on pourrait appeler un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il va vous pousser à jouer votre personnage pour pouvoir faire des trucs cool, ce qui va vous pousser à jouer votre personnage pour continuer à faire des trucs cool, etc., etc. Il y a la possibilité évidemment de tomber dans le cercle vicieux assez facilement. Donc celui-là, c'est le premier jeu dont je voulais parler. Alors, est-ce que vous avez un commentaire à faire vis-à-vis de celui-là et vis-à-vis de cette mécanique très simple, c'est-à-dire vous avez un nombre de points de destin limités, vous les utilisez au fur et à mesure du jeu, et pour éviter d'être affaibli, pour éviter de subir l'attrition, vous allez avoir une solution qui est de jouer votre personnage et de faire intervenir vos défauts en collaboration avec le reste de la table et le maître du jeu.
Bien le système, mais est-ce que c'est vraiment de l'attrition? Parce que tu peux toujours en recréer, parce que si tu joues ton personnage, tu vas avoir des points. Alors, est-ce que c'est de l'attrition?
Alors, justement, c'est un grand point qu'on pourrait poser. L'attrition dans les jeux de rôle, je ne crois pas qu'il existe, enfin, en tout cas, je ne connais pas de jeux qui ne te permettent pas, d'une manière ou d'une autre, de regarnir tes ressources.
Oui.
Il se trouve qu'ici, c'est un cycle rapide, et c'est pour ça qu'il m'intéressait.
Sombre.
Sombre, oui. Sombre, c'est un bon exemple.
Ne regarnis pas tes ressources.
En fait, dans Sombre, on ne regagne aucun point.
Oui, mais tu joues une victime. C'est aussi très rare dans le monde du jeu.
C'est pour ça que je signale au passage. Quand on est blessé de manière définitive. Il n'y a pas de soins. Quand on devient fou, on peut pas être soigné non plus. Quand on perd une balle, on peut pas recharger son arme avec. Enfin, on n'a pas moyen d'aller à une boutique acheter des armes ou autre. Enfin, ça fait pas partie du concept du jeu.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, c'est un très bon exemple effectivement, Sandra.
Et c'est clairement assez rare.
Non, rien à dire.
Moi, ce que j'aime dans ce système Fate, c'est justement jouer ses défauts parce que. J'ai souvent tendance à avoir croisé, peut-être parce que c'est le genre de jeu que j'aime, des jeux où les défauts on les prend juste pour accumuler des points, pour être plus puissant, mais en fait ils ont assez peu d'impact dans le jeu. Or je trouve que les défauts en cours de partie, c'est quand même souvent un super ressort scénaristique. Et Fate, quand t'es un peu min-maxeur, tu peux pas dire non quand on te propose un point de fate. Je veux dire, tu nies trop tes points de fate pour faire des trucs géniaux derrière, donc t'es prêt à accepter tous les emmerdes possibles et imaginables simplement pour en avoir plus. Et du coup, c'est vrai que, eh bien, en fait, jouer un personnage ambivalent avec des défauts, c'est quand même aussi souvent vraiment l'occasion de relancer l'histoire, de relancer les péripéties, de relancer la narration. Et moi c'est ça qui m'a plu, c'est que voilà, ça te donne envie enfin de jouer des personnages qui ont des défauts et de choisir des défauts parce que t'as envie de les jouer ou parce qu'ils te font marrer et pas simplement parce que ils te rapportent 15 points de plus pour avoir une boule de feu plus grosse à la prochaine baston, quoi.
Sinon j'ai souvenir dans Les Secrets de la Septième Mer, mais je me trompe peut-être parce que j'ai tellement bricolé le système que je me rappelle plus bien, qu'on a un système de points de panache où quand on dépense un dé, donc c'est des dés d'héroïsme hein, typiquement qui augmente le score du jet, ce dé une fois qu'il est dépensé, il est mis une sorte de, voilà, ça peut être un bol au milieu de la table, un pool, et il est mis à disposition du meneur de jeu qui lui-même va pouvoir les dépenser. Et il y a un jeu d'alternance qui se produit entre le meneur et les joueurs, et du coup une dépense de points d'XP, enfin de panache, a un avantage sur le moment pour le joueur, mais il sait que ça va avoir un retour derrière, un retour de bâton de la part du meneur, ouais, et vice versa.
On a le DK System qui fait ça aussi.
Le DK System est totalement basé, le joueur a un pool de dés qu'il choisit de dépenser ou pas pour obtenir des bonus sur son action, ce pool de dés arrive dans les mains du MJ. Ça donne beaucoup d'actions à la table, mais parfois ça pousse aussi vraiment les joueurs à réfléchir sur une action, si cela nécessite que cette action soit vraiment essentielle à l'histoire ou si cette action peut être échouée. Ça prend les joueurs parfois à prendre le risque d'échouer l'action.
Mais je sais pas si on est vraiment, enfin voilà, moi c'est pas l'idée que je me faisais de l'attrition, tu vois.
C'est un petit peu mon but. C'est-à-dire que dans les mécaniques d'attrition, là ce qu'on a décrit c'est un cycle. C'est-à-dire c'est un cycle de renforcement de vos comportements avec un système de récompense. Si on parle de la Septième Mer, si on parle de Fate, on peut parler de Houses of the Blooded, dont on parlait tout à l'heure avec Xavier. Il y a une chose qu'avait dite John Wick, qui était très intéressante de ce point de vue-là, qui permet justement d'éviter l'attrition dans ces systèmes-là. La façon d'avoir de l'attrition dans ces systèmes-là, c'est que une fois que vous avez dépensé vos points, il est très difficile d'en regagner. Et si vous avez du mal à gagner des points de destin, si vous avez du mal à regagner des d'héroïsme, des dégâts, etc., etc., c'est des systèmes un peu différents là, mais forcément, vous allez affaiblir votre personnage en limitant ses possibilités au fur et à mesure. Mais John Wick, dans ses conseils dans Houses of the Blooded, il dit qu'il faut que ses points circulent. Alors, je sais pas s'il redisait la même chose dans Le Secret de la Septième Mer, Willem, tu sais ou pas?
Non, pas du tout. Dans la Septième Mer, c'est le bol et le c'était plutôt une circulation, ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il en parlait parce que dans Houses of the Blooded, il y a une inévitabilité au personnage parce que c'est un thème tragique.
Oui.
Et peut-être plutôt dans ce sens-là. Peut-être c'est pour ça qu'il en parlait, je sais pas. Mais dans Seven Seas, il y a pas ça.
D'accord.
Il y a pas vraiment. Mais par contre, vas-y, pardon, je sais pas si t'as...
Non, je t'en prie.
Maintenant, Houses of the Blood.
Ça me fait penser aussi au niveau attrition dans le même genre. Je me demande si l'humanité dans Vampire, c'est quelque chose qui est assez inévitable et qui va plutôt vers le bas et c'est vers la perte et,
Ouais, voilà.
Y a un côté attrition quoi là-dedans, la perte d'humanité pour un vampire dans le jeu.
Oui, tout à fait, ouais. C'est un point intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose, Xavier ?
Non, enfin, je sais pas si c'est très intéressant. Je disais Houses of the Blooded, c'est quand même un jeu que John Wick il écrit sensiblement plus tard après la.
Bien sûr.
C'est pareil dans Houses of the Blooded. Donc moi je peux pas m'empêcher de retrouver une partie de L5R quoi, avec les maisons, avec des systèmes rigides dans une société très codifiée. C'est vrai qu'on voit bien que c'est un jeu qu'il écrit, après on a voulu écrit d'autres et on retrouve certains éléments des autres jeux sous une forme un peu subtilement différente. Hein, mais moi je trouve qu'il y a des inspirations d'un peu tout ça dans Houses.
Bien sûr, Houses of the Bloody de toute façon est directement inspiré des premières versions de Fate. Il le dit dans son jeu.
Ouais,
tout à fait. Il parle de Spirit of the Century et Fudge et tout ça. Enfin, il reprend la mécanique des aspects, il reprend les points de destin qu'il appelle des points de style. Bon, il développe d'autres aspects, d'autres points de vue sur le jeu. Il dit aussi qu'il a écrit le jeu comme un anti-Donjons et Dragons.
Oui, ça, j'avais lu dessus. En fait, je l'ai jamais fini, il faut que je le lise. Je l'ai, j'ai jamais fini de le lire, ce jeu.
Mais le parallèle avec L5R est évident, puisque les gens, à partir du moment où on en retrouve un petit peu le même mécanisme que dans Apocalypse World et tous les hacks qui ont été produits, Houses of the Blooded, il a généré un certain nombre d'autres systèmes. Un des premiers qu'il a publié, c'était Blood and Honor, donc qui va sortir en français bientôt, qui est donc un jeu dans un contexte de Japon médiéval, qui reprend les règles de Houses of the Blooded un petit peu modifiées. Dans Radio Rollist, alors j'ai malheureusement pas le numéro, mais j'essaierai de le mettre dans les notes de podcast. Dans un des Radio Rollist, Callisto parle de World of Doom, qui est un jeu qui a repris Blood and Honor pour le transformer de manière à jouer des films noirs japonais. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc oui, il y a une parenté, clairement, là-dedans. Ouais. Dans les inspirations.
Je me demande s'il n'y a pas une parenté dans son autre jeu à John Wick, qui est Projet Aegis, son petit jeu qu'il a fait sur les mechas militaires années 80.
Ah oui, Projet Aegis, c'est effectivement, c'est un jeu. Alors, si je me souviens bien, celui-là, il l'a fait pour une commande par rapport à un type qui lui avait demandé un jeu de ce type-là.
Ouais, il y a un espèce de défi et ça l'a branché. Et il a dit que ce serait un drame militaire avec des mechas dans un style années 80, genre à la Terminator. Et je dis ça parce que si je me souviens bien dans le jeu, les joueurs qui managent leur mecha, enfin c'est une ressource qui est finie quoi. Il n'y a plus de mecha pour se défendre contre les aliens qui vont les submerger ou un truc dans le genre, si je me souviens bien.
Alors dans ce jeu-là, t'as trois époques auquel tu peux jouer, et en fonction des époques, le contexte est un peu différent. Et effectivement, c'est un jeu qui est basé sur le même moteur au départ qu'Houses of the Blooded, qui est un peu modifié pour pouvoir supporter les combats de mecha, en gros. Hein.
Mais je crois que si je me souviens bien, le système est basé sur le fait que t'en as pas plein des mechas, tu peux pas le réparer à outrance, et il faut que tu fasses avec les pièces que t'as, ou...
C'est très possible, ça je me souviens pas, je dois t'avouer. Pour continuer sur mes idées de jeu intéressant vis-à-vis de ce point de vue-là, puisque là on a vu des cycles qui effectivement sont à la limite de l'attrition, ça dépend comment on les utilise. On a aussi des jeux qui utilisent l'attrition directement. Alors l'exemple qui m'est venu en tête, c'est le Cypher System qu'on trouve dans Numenera, dans The Strange par exemple, qui utilise ces mécaniques-là. Alors comment est-ce qu'il utilise ces mécaniques-là, pour les décrire très brièvement? Quand on fait une action, on peut dépenser des points d'un pool. Alors il y a un pool mental, enfin une réserve de points mentaux. Alors c'est quoi? C'est mental, vitesse et enfin intellect, vitesse et force, je crois, ou un truc comme ça. Vous allez donc dépenser au fur et à mesure des points pour soutenir vos actions. Vous allez subir des pertes de ces points quand vous vous faites blesser. Vous allez dépenser ces points pour nourrir vos pouvoirs. Et le seul moyen de les regagner, ça va être par le repos. Sachant que le repos, il subit un phénomène de rendement décroissant. C'est-à-dire que le premier repos qui vous donne des points, il va durer une minute ou un round. C'est juste reprendre son souffle. Le deuxième repos, ça va durer l'incrément de temps suivant. Puis il vous faudra une heure, puis il vous faudra 8 heures. Pour vous reposer, pour pouvoir regagner ces points-là. Donc je pense que la mécanique de retour des points est très présente. Donc je voulais parler de celui-là. Non, je t'en prie.
Du coup, ça vient de me faire penser à un système d'attrition qui est quand même assez important et très très répandu, c'est la santé mentale dans Cthulhu.
J'allais y venir, oui, tout à fait. C'est un de mes un des points.
Sur ta liste, mais...
Si si, je l'avais sur la liste un peu plus tard.
Moi, je vais vous interrompre 30 secondes.
Vas-y, vas-y.
Je tiens à dire que sur Numenera, ça a été kickstarté ou crowdfundé chez Black Book et qu'ils sont en train de le traduire et donc le Cypher System devrait arriver en français sur nos écrans assez rapidement.
Ah oui oui, enfin, assez rapidement, ouais, tout à fait. D'autant plus que la dernière publication de Monty Cook et ses acolytes, c'est le Cypher System comme système à part, non lié à un jeu, comme moteur générique en fait pour des jeux.
Ouais, ça... il était sur Kickstarter là ou il y a pas longtemps ou en ce moment, non?
Oui oui, c'est possible. Oui, non, je crois qu'il est sorti là. Moi, je l'ai vu sur DriveThruRPG, donc en anglais, mais
ah, ça doit être ça. J'avais reçu un email sur DriveThru, un truc comme ça.
Ouais ouais, c'est ça, je pense.
Bon, mais Monte Cook, c'est avant tout un grand auteur de Donjons et Dragons.
Absolument. Ouais. On parle de Cthulhu un peu, puis après on parlera de donjons et je pense qu'on aura déjà exposé un certain nombre de. On va reparler de sombre aussi un tout petit peu, peut-être un petit peu de vampires, et puis après on va pouvoir voir ce qu'on en tire de toutes ces idées là et comment ça nous intéresse en jeu de rôle en fait. Alors Cthulhu. Santé mentale, là c'est une vraie attrition pure et dure, puisque normalement la santé mentale ça ne se regagne pas. Alors je crois que tu peux faire
très peu, mais enfin c'est marginal hein, les
en
gars.
Fin de scénar, quand tu réussis un scénario, tu regagnes quelques points, généralement moins que ce que tu as pu gagner. D'ailleurs je crois que c'est même topé, enfin, on peut pas dépasser le score qu'on avait à la base, mais ça dépend des versions, des règles, et il y a la psychanalyse qui permet aussi de regagner quelques points.
Oui, enfin c'est quand même très marginal quoi.
Globalement, effectivement, on baisse.
Et gros.
De manière générale, ça baisse, ouais.
Et on baisse beaucoup plus facilement qu'on ne gagne à chaque fois.
Oui, ça, on baisse beaucoup plus facilement qu'on gagne, dit Sandra.
Si on regagne un ou deux points, on sait qu'on en a perdu 10 ou 20.
Généralement, on est mort ou fou avant de pouvoir regagner.
Alors, on va prendre. On va commencer à parler de cas pratiques, peut-être, en parlant de ce système-là. Qu'est-ce que ça apporte? Ce système-là, à votre avis? Le fait de perdre la santé mentale, qu'elle s'érode au fur et à mesure des parties, voire au fur et à mesure du même scénar, qu'est-ce que ça apporte dans le jeu?
À mon avis, moins on regagne facilement les points, plus on stresse quand on en perd.
Oui.
Pour moi, c'est un truc qui est dans l'imaginaire de tous les rôlistes, que je sais que si je vais jouer à Cthulhu, d'ailleurs, comme c'est Xavier qui vient de le dire, soit je vais devenir fou, soit je vais mourir dans une, deux, trois parties, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que, enfin voilà, quand c'est sorti, au niveau narration et intérêt pour le jeu de rôle, la SAN sur le système basique qui existait déjà au travers de RuneQuest, mais donc, enfin voilà, il y avait vraiment une avancée parce que ça permettait de raconter vraiment d'autres histoires, l'appel de Cthulhu. Aujourd'hui, cette mécanique, elle a vraiment vieilli. Notamment parce qu'elle avait des défauts de l'époque, qui est que quand on perdait trop de points, on faisait un jet sur une table aléatoire pour savoir ce qui allait nous arriver, et donc on voyait un type encupuchonné, plein de sang, et tout d'un coup on se mettait à avoir peur des chiens. Au moment de l'histoire du jeu de rôle où c'est sorti, c'est génial, mais en même temps ça porte les travers de cette période-là.
Oui.
Et effectivement, le petit frère du système de San de l'appel de Cthulhu, eh bien, c'est la perte d'esprit dans Sombre.
Oui.
Sauf que Johan, dans Sombre, il a rajouté une personnalité qui se dégrade au fur et à mesure de la perte de santé mentale. Et donc, on choisit son arc narratif de folie. C'est pas tiré au hasard, ça sort pas du chapeau, et c'est pas décontextualisé.
Alors, dans ton expérience de Sombre, qui est quand même relativement importante, qu'est-ce que ça peut apporter? Ah, Willem, tu voulais intervenir, pardon.
Ouais, j'ai un autre contre-pied dont je voulais parler, c'est la santé mentale dans Unknown Armies.
Ah bah oui.
Qui a aussi une évolution que j'aime beaucoup, qui a toujours une certaine attrition, mais qui est gérée de manière très différente. Parce que c'est un jeu aussi horreur, mais assez différent de Cthulhu, où t'as pas mal de stress mentaux. Et les stress mentaux que ton personnage vit dans le jeu, ils sont gérés entre... Il y a 5 jauges différentes, en fait.
Ouais.
La violence, le surnaturel... L'impuissance, de pouvoir être impuissant à une certaine situation, l'isolation et le soi. Le soi, ça peut être par exemple que ton personnage apprend qu'il n'est pas qui il pensait être, par exemple. Et ensuite, donc, tu jettes des dés et tu as des endurcissements ou des fragilisations.
Oui.
Selon le niveau du stress de 1 à 10, tu vas jeter un dé ou si tu es déjà endurci au type de situation auquel tu es en train de faire face, tu n'as pas besoin de jeter de dés. ce qui peut être très intéressant. Ou alors, si tu es fragilisé, ben, forcément, là, tu vas plutôt vers d'autres types de dérangements mentaux. Le summum de l'endurcissement, c'est que tu deviens un sociopathe, et le summum de la fragilisation, c'est d'autres dérangements qui vont être liés au type de stress que ton personnage a eu sur son historique.
D'accord. Et bon, avant de repasser sur Sombre, qu'est-ce que ça t'apporte en tant que MJ d'avoir ce système-là dans la partie, ou en tant que joueur d'ailleurs ?
En tant que MJ, moi je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet de pouvoir évoluer petit à petit le genre de troubles mentaux que tu vas avoir. Parce que l'autre chose que, comme Xavier le disait, c'est vrai que c'était assez tôt dans le jeu de rôle d'essayer de simuler des troubles mentaux, et c'est un truc qui est extrêmement compliqué, hein. Si vous réfléchissez pendant deux secondes, c'est vraiment pas évident à imaginer comment simuler un trouble mental, non seulement, enfin, sans même penser au roleplay, mais juste en pensant à des systèmes de règles. Ça, c'est d'une part, et d'autre part, j'aime bien la division entre cinq parties différentes. Disons que c'est pas le mental, c'est pas une chose, c'est bon, là, cinq, c'est arbitraire aussi, mais c'est un petit peu plus équilibré, ou en tout cas, c'est un petit peu plus riche que juste un, quoi. Et aussi que tu t'endurcis à certaines choses, donc t'as pas forcément besoin de jeter tout le temps des dés, de que perdre des points.
L'endurcissement existait déjà dans Cthulhu, hein. Enfin, je sais pas à partir de quelle édition, mais la logique d'habitude à l'horreur est présente pour une fois qu'on a perdu, par exemple, si une créature te fait perdre, genre, je sais pas, un zombie te fait perdre un D6 max en points de san, si t'as déjà perdu 6 points, tu es immunisé aux zombies. Enfin, les zombies ne te feront plus perdre de points de san.
Ah, j'avais zappé, ouais, effectivement. Ok.
Ok. Oui, Sandra.
Un jeu également où il y a de la san, entre guillemets, c'est Cult. Ce n'est pas l'appel de Cthulhu, mais lorsqu'on joue à Cult, on tombe dans un monde de folie, et ce qui est perdu ne sera pas regagné. C'est une attrition de la santé mentale qui est également présente dans Cult. On préfère souvent croire à l'illusion du monde plutôt que de se lever le voile sur ce monde.
La Sombre est le digne héritier de Cult, hein.
Ben d'ailleurs, voilà, on a vu un système Cthulhu de base, on a vu Unknown Armies qui permet d'aller plus dans le détail en donnant une certaine finesse sur ses définitions, et puis à l'opposé, on a Sombre qui est très très simple de ce point de vue-là.
Ouais, vraiment, vraiment très simple, hein. C'est une jauge en 12 points qui va se dégrader en 3 étapes, donc on a une personnalité saine, puis un peu dérangée, et puis proche de la folie, pour finir complètement fou, c'est-à-dire on quitte le personnage quitte la partie du point de vue du joueur. L'intérêt, c'est que à la création de personnages, les joueurs choisissent la direction de cette dégradation de leur personnalité. Ils choisissent, par exemple, d'être un peu méfiants au début et puis de finir complètement paranoïaque, ou d'être un petit peu quelqu'un de violent et de devenir un vrai psychopathe à la fin. L'intérêt, il est que ça a deux intérêts, cette mécanique-là. La première, c'est que ça ne ridiculise pas le personnage. Quand on tire une folie au hasard sur une table de l'appel de Cthulhu, on peut se retrouver avec une folie qui, en fait, va, du point de vue du joueur, ridiculiser le personnage. Alors que là, puisque c'est le joueur qui a choisi sa descente aux enfers au travers de la folie, eh bien forcément, il ne sera pas ridicule. La deuxième chose, c'est que c'est un rapport d'agentivité. Le joueur est vraiment maître de la descente aux enfers qu'il choisit. Et donc, c'est un choix intéressant, pertinent, voulu, et donc c'est vraiment donner aux joueurs la possibilité d'être acteur. Mais cette descente dans la folie, elle a quand même un impact fort sur le jeu, puisque plus on avance vers la folie, plus c'est difficile de s'en sortir vivant dans un contexte de survie horrifique tel que Sombre. Voilà, enfin je m'emballe, hein, parce que j'aime beaucoup Sombre, donc voilà, je m'emballe.
C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a pas mal de trucs à dire au niveau de l'attrition en termes de jeux d'horreur et de santé mentale.
Absolument, j'allais y revenir. Là, on parle de dégénérescence du personnage. Est-ce qu'on parle d'attrition quand on parle de dégénérescence du personnage ? Je ne sais pas. Sandra, tu voulais dire quelque chose ? Non, elle ne voulait rien dire,
voilà,
c'était
merci,
un faux
merci
départ.
Merci pour ton intervention, Sandra.
Moi, par contre, ce que j'aimerais bien préciser, c'est que l'attrition, a priori, c'est l'opposition de la rétribution. Et la rétribution est pour moi le mécanisme de jeu de rôle qui est le plus central, en fait. L'attrition, là, on explore peut-être une espèce de détail qui amène plein de choses très intéressantes. Mais de base, quand on développe un personnage, on est sur la logique de rétribution, c'est-à-dire qu'en fin de partie, on va gagner des points d'XP, on va gagner de l'or, on va gagner des compétences, etc., du matériel, des connaissances. On est dans l'accumulation, donc dans la rétribution, on va gagner des points, on va gagner des choses. Et la rétribution s'oppose donc à cette attrition. Donc on est dans la rétribution dans une logique habituelle du jeu de rôle, le côté gros bill, on accumule. Et l'attrition, c'est cette opposition qui est dans un côté déjà qui incite au narratif. Comme on le voit, ça marche très bien dans les jeux d'horreur, donc dans des jeux où on a envie d'instaurer une ambiance plus narrative, alors que le grobilisme est typique du porte-monstre trésor, du monde du jeu plus mécanique, on va dire. Et puis voilà, je sais pas trop où je vais en venir, mais en tout cas, ça peut peut-être faire réagir des petits camarades.
Alors,
c'est intéressant parce que sans parler de porte monde trésor, justement, on revient à ce qu'on était au début de la conversation. J'ai l'impression en termes de cycle. Donc c'est une question d'équilibre du coup. T'es en train d'enlever des trucs à un joueur, ça on peut parler d'attrition. Sans parler de porte monstre trésor, parce que comme tu l'as dit, c'est pas une question nécessairement d'amulettes ou de trésors, mais d'informations, et ça peut être de la narration aussi. Enfin, d'informations, de pouvoir, d'accumulation, de contacts, enfin bon, des récompenses, des rétributions. Et du côté, un côté équilibre, et c'est marrant, justement, j'y pensais aujourd'hui, parce que je suis en train de bosser donc, sur cette nouvelle campagne dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, les joueurs hier, ils sont mis ensemble, et je leur ai demandé de créer qui ils étaient en tant que groupe, de manière à ce qu'ils soient cohérents. Et bon, ils ont créé qu'ils étaient une famille, et évidemment, enfin, c'est pas très surprenant, ils ont décidé qu'ils venaient d'une famille qui avait des sous et qui était aisée. Ils sont pas idiots quand même, c'est des joueurs, ils se disent, bon, on va aller avoir des sous.
Ouais. C'est assez classique.
Et, et donc, du coup, par contre, moi, je leur ai dit, OK, moi, il n'y a pas de problème, vous venez d'une famille qui a des sous, mais maintenant, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui va contrebalancer le fait que leur famille ait des sous pour créer une narration intéressante. Alors, est-ce que c'est pas forcément de l'attribution et de la rétribution, c'est un certain équilibre, mais c'est, je sais pas, plus proche de la conversation qu'on avait au début sur les cycles, quoi.
Mais, justement.
Sur un équilibre, peut-être.
Justement, moi, je trouve ça très intéressant parce que quand j'ai réfléchi à ce sujet de l'attrition, j'ai vu plusieurs rôles à l'attrition et plusieurs raisons pour lesquelles on trouve ces mécaniques dans le jeu. Si on reprend l'exemple de la santé mentale, de la dégénérescence du personnage des jeux d'horreur, ça permet de poser une ambiance. Vous savez que, si on prend le cas extrême, sombre, hein, vous êtes une victime, la preuve, vous ne pouvez que descendre. La seule possibilité pour votre personnage, c'est de perdre des morceaux d'esprit, des morceaux de corps, petit à petit, vous allez être éliminé, vous allez crever, et puis si vous survivez, c'est déjà un exploit extraordinaire et vous êtes déjà très content.
C'est la récompense de survivre à sombre.
Voilà, c'est la récompense. Donc ça, c'est poser des éléments d'ambiance. Je pense que Sandra en a parlé en parlant de... Alors, je sais pas si on en a parlé avant, je crois. Quand on parlait des mécaniques liées à la gestion des points de fatigue.
Oui, c'est... Parce que pour le moment, nous n'avons parlé que au niveau de la santé mentale. Mais dans un jeu, la mécanique de gestion des points de fatigue ou de blessures, comme par exemple le système métal de Bloodlust
la dernière
exemple.
Version Bloodlust, oui.
Voilà la dernière version qu'il utilise ou encore les systèmes sur L5R où plus nous sommes blessés plus nous allons avoir des soucis à donner des coups à manier, les systèmes dans Hackmaster, les systèmes de jeu de Torchbearer qui va sortir sous peu, ce sont des systèmes de jeu qui lorsque le joueur est blessé, le personnage joueur est blessé, lorsque le personnage joueur est fatigué, il va avoir du mal à effectuer ses actions. Il va avoir besoin d'être soigné ou de se reposer. Sauf que le soin ne sera pas forcément disponible. Dans Hackmaster, c'est un remix de Donjons et Dragons qui est sorti vers 2002, si on veut. Eh bien, dans Hackmaster, souvent les prêtres ont un sort de soin par jour. Cela pousse énormément en tant que groupe de jeu, ça évite le grobilisme, on va ouvrir une porte, défoncer tout ce qu'il y a derrière, prendre le trésor, et puis on va continuer la porte suivante. C'est plutôt je vais ouvrir délicatement la porte, voir s'ils sont pas trop nombreux, essayer d'y aller, et Oui, je alors, comprends que certains ne sont pas d'accord.
Il faudra que je relise Hackmaster parce que c'est pas le souvenir que j'en avais. Mais...
En tout cas, dans Fils des siècles, on a cette logique-là, puisque j'ai mis en place une succession de jours.
Auto-promo!
Auto-promo! et donc, on a un peu cette logique-là de diminution à travers des jauges qui entraînent des malus et qui rendent les actions plus difficiles, qu'elles soient sociales, physiques ou mentales.
Ouais,
je l'ai vu dans d'autres jeux là. Il y a deux jeux qui sont créés par ici, par des gens dans le club et que j'ai vu. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, je sais pas si c'est quelque chose qui est courant en ce moment. Ou pour prendre tes actions plutôt que de jeter un dé, il faut filer un truc. Alors il y a des marques là. Je vois un jeu qui s'appelait Nain de Jardin où t'avais des marguerites sur la table dans des sections différentes et fallait leur donner. Et okay. Après t'en as plus à un moment donné, donc il y a une forme d'attrition. Sur le genre de tokens, enfin des marguerites ouais. En l'occurrence.
Tout à fait.
Tu pouvais leur donner, t'en as plus après.
Alors si je.
C'est la même chose dont on parle, mais.
Bah si, un petit peu, mais si je poursuis sur mon idée, Sandra voulait dire quelque chose avant que je poursuive.
Non, je pense aussi sur l'attrition au niveau, par exemple, d'un jeu que nous testons, où nos personnages votent lors d'un Sénat. Ils ont un nombre de voix limité, cela pousse à choisir.
Alors ouais, ça, c'est l'autopromo d'un jeu qui n'est même pas encore sorti, qui n'est même pas encore fini d'écrire.
Je n'ai pas arrêté de dévoiler le nom du jeu.
Ouais, ouais, c'est en test. Ok, donc je disais, sur mon idée, je poursuis. Première utilité de l'attrition telle qu'on l'a vue, finalement, la mise d'une ambiance, comment vivre une ambiance. Alors ça peut être effectivement la dégradation de votre santé mentale dans un jeu d'horreur, ça peut être la dégradation de votre santé, la fatigue qui s'accumule pour votre personnage quand vous êtes en train de faire un voyage long, quand vous êtes en train d'aller dans un donjon profond, etc. Deuxième point intéressant, la simulation de la réalité, qui a beaucoup été tenté dans des vieux systèmes, et c'est pour ça que les points de vie, c'est pour ça que la fatigue existait. Hein, après tout, à force d'agir, votre personnage, il devrait être fatigué. Donc pour mieux ressentir ce que fait votre personnage, eh ben vous allez perdre des points dans des cases qui vont vous permettre d'être fatigué.
La question des ressources aussi.
Oui, et le dernier point intéressant, c'est, Willem qui l'a évoqué, Benoît aussi, l'équilibrage. Dans beaucoup de jeux ludiques, en tout cas à but, on va dire, dans lequel vous allez chercher à triompher d'une adversité, à vraiment remporter la victoire, etc. Bah, comme dans Donjon de base, mais plein d'autres jeux, hein, c'est pas le seul. Le phénomène d'attrition va justement être utilisé pour équilibrer un petit peu les capacités de vos personnages. Parlons un petit peu, je sais pas, par exemple, de la dernière édition de Donjons et Dragons, hein, D&D 5. Quand on joue à D&D 5, vous avez deux systèmes de repos qui vous permettent de regagner vos capacités. Alors ils ont mis tout un système pour regagner des points de vie assez facilement, et selon la classe de personnage que vous jouez, le repos court ou le repos long va être un énorme facteur d'équilibrage des classes. Je sais pas ce que tu en penses, Xavier, on en avait parlé
peu. Oui, moi je suis vraiment d'accord, hein. Ça permet de proposer des possibilités tactiques un peu différentes et de sortir un tout petit peu du carcan de la magie ancienne. Alors qu'est-ce que la magie ancienne? Eh bien, Gary Gygax, quand il a écrit Donjons et Dragons, il s'est inspiré d'un monde décrit par Jack Vance où les magiciens, quand ils lançaient leurs sorts, oubliaient leurs sorts, étaient obligés de les apprendre régulièrement. Et donc le paradigme de la magie vancienne, c'est que le matin on apprend ses sorts et quand on les a lancés tout au long de la journée, on les oublie. Et donc le fait des repos courts et des repos longs permet de varier cette temporalité et donc de générer plusieurs styles de jeu avec des gens qui vont avoir beaucoup de sorts mais qu'ils oublient au fil de la journée, ou des gens qui en auront peu mais qui se régénéreront plus souvent. Et voilà, ça permet d'apporter un petit peu de la diversité en fait.
Alors mon expérience de donjon, pas forcément sur la 5e édition qu'on a testé ensemble, mais sur les éditions précédentes, c'est que il y a beaucoup de groupes de jeux qui détournaient un petit peu le système pour justement ne pas prendre en compte cette perte de ressources régulière.
Oui, ben c'est un problème que soulevait, je sais plus qui, je l'ai lu récemment là, sur les jeux tactiques, on va dire. En fait, dans un jeu tactique, il faut pas proposer trop de rencontres difficiles. Parce que sinon, à chaque rencontre difficile, les joueurs ils vont se reposer, parce qu'ils en ont trop pris plein la gueule. Et du coup, si on enchaîne les rencontres difficiles dans les jeux de rôle tactiques, eh bien, on enchaîne les repos, en fait.
Et donc, il faut, si on veut pas tomber dans ce travers-là, en fait, proposer toute une série de petites rencontres pépères où les joueurs déchirent un peu tout et où la difficulté, ça va être de est-ce que je pousse le bouchon trop loin, Maurice, ou pas, quoi. La difficulté va plus être à quel moment j'arrive à sentir le moment où il faut que je me repose plutôt que, bah, et là, j'en ai tellement pris plein la gueule que j'ai pas le choix, je me repose, quoi.
Et c'est là que la gestion de ressources va prendre un aspect que tu trouves assez peu en jeu de rôle finalement, qui va prendre en compte le talent du joueur et sa connaissance du jeu pour gérer ces ressources-là, parce que ça devient important dans un cadre de jeu de ce type.
Et c'est clairement, voilà, on est clairement héritier de Donjons et Dragons là-dedans, parce que eh ben, on est héritier aussi des jeux de stratégie sur table, quoi. Des jeux de figurines et de voilà. Et mais ce système de est-ce que je continue à prendre des risques, vers où j'avance, etc., c'est des systèmes qu'on retrouve aussi beaucoup en jeu de plateau, c'est-à-dire que voilà, tu viens de gagner, est-ce que tu remets tout sur le tapis pour espérer gagner plus, ou est-ce que tu t'arrêtes là, tu passes ton tour, tu reviendras plus tard, tu sécurises quelque chose, et donc ces systèmes d'attrition dans des jeux de rôle tactiques, ça permet aussi de simuler ça, quoi, la prise de risque. Est-ce que je continue ou est-ce que je la joue pépère, quel moment je prends des risques ou pas, quoi.
Avec le risque de perdre un peu en cohérence. Enfin, moi, j'ai souvenir dans mes très très jeunes années de Donjons et Dragons, et même dans les jeux vidéo, parce que je me souviens d'un jeu notamment qui s'appelait Eye of the Beholder, qui est tiré de Donjons et Dragons, qui date des années 80. Hein. Et dedans, on avait cette idée de sortilège qu'on désapprenait, qu'on oubliait une fois qu'on les lançait. Et du coup, quand on arrivait devant la porte d'un boss ou d'un monstre qu'on savait être une confrontation importante, comme tu dis, au niveau tactique, eh ben, on dormait.
Voilà.
On dormait devant la porte du monstre. Voilà, mais ça, on l'a fait en jeu de rôle sur table autant que sur jeux vidéo.
Ouais, je l'ai fait ça sur les jeux vidéo aussi, je m'en souviens.
Et c'est complètement con. Enfin, je me rappelle même dans les jeux vidéo, t'avais un compteur d'heures de sommeil nécessaire pour revigorer le personnage. Ah. Et des fois, on dormait des centaines d'heures pour récupérer tous les sorts qui étaient nécessaires. Et du coup, le personnage, si on comptait en nombre d'années passées dans le donjon, on arrivait à des trucs complètement incohérents. Mais voilà, tout ça pour dire que, au bout d'un moment, si on en oublie le côté narratif, le côté qu'on veut réaliste dans le... Qu'est-ce que tu fais derrière ma tête, Julien ?
Je veux laisser Sandra parler.
D'accord, mais j'arrive.
Elle peut parler, on va la couvrir avec notre grosse voix.
Plus on est dans le tactique, plus on en oublie le réalisme qui à la base était la source de cette règle pour pouvoir avoir un aspect tactique qui se tient.
Ah, les sales minvexeurs, hein. Ils détournent vraiment toutes les règles sympas qu'on peut inventer.
Voilà.
C'est fou, ça.
C'est notre possible pour faire un truc réaliste, et il y en a qui te déglinguent ça.
Le réalisme en jeu de rôle.
Est-ce Sandra. Que réaliste, c'est un bon mot pour ça?
Allez, Sandra.
Au niveau de l'attrition, je voulais dire, la ressource la plus dure à gérer lorsque Xavier parle, justement, au niveau de ses petites rencontres, c'est le temps. C'est simplement la ressource du temps. Lorsque vous avez une quête, il vous faut sauver la princesse car dans 2 jours elle sera exécutée. On a beau avoir que des petits gobelins face à soi, s'il faut dormir, cela fait perdre du temps. Donc cela fait aussi hésiter au niveau des tables de jeu. Le fait d'avoir le temps, c'est la ressource la plus difficile à gérer, j'ai pu remarquer, quels que soient les jeux, quasiment autour d'une table de jeu. C'est la ressource la plus rare et la plus précieuse qui ne se régénère pas en se contentant de la perdre.
Le temps, c'est le corollaire à l'attrition. C'est-à-dire que si t'as pas besoin de bouffer tous les jours, quand t'as plus de bouffe, c'est pas grave. Hein. Ça devient pénible que si t'es obligé de manger tous les jours, hein, de plus avoir à manger. Hein.
Exactement, oui. Et d'ailleurs,
je trouve que c'est un très bon segue pour la prochaine partie de l'attrition, c'est-à-dire le temps de jouer au jeu de rôle.
Absolument, ouais, tout à fait. Avant d'y passer, juste un petit bilan. Je pense qu'on a exposé pas mal d'aspects intéressants. Et finalement, ce qui m'intéresse dans l'attrition, c'est aussi le fait que on peut l'interpréter et l'utiliser, quelle que soit la façon de jouer au jeu de rôle qu'on a. Si on reprend la théorie GNS forgienne de description des jeux de rôle, chacune des propositions ludiques qui apparaît dans cette proposition utilise ou peut utiliser l'attrition d'une manière ou d'une autre. Je suis pas spécialiste de cette théorie-là, mais si on prend l'acceptation générale commune qui est de dire que le côté G gaming, qui est le côté ludiste, on a parlé du côté tactique de la gestion des ressources et de l'attrition. Si on prend le côté simulationniste, je pense que quand je parle de mise en ambiance, d'immersion et de vivre ce que son personnage est en train de vivre à travers comme dit Frédéric Saint-Esse, la synesthésie, de voir son personnage qui perd des points et de devoir de son côté ressentir la fatigue de ce personnage par ce biais-là, j'exploite peut-être très mal son concept, hein, donc je m'en excuse parfaitement. Il y a des bien meilleurs exemples à trouver sur son blog, je le mettrai en lien. Le point de vue narrativiste, qui est de raconter une bonne histoire, ou la façon dont on l'a utilisé ici, c'est-à-dire de poser des dilemmes moraux, sous-entendant que c'était la façon d'avoir de bonnes histoires, là aussi, les décisions du personnage ne vont pas être les mêmes, et les décisions du joueur face à l'état de son personnage ne vont pas être les mêmes en fonction de la situation d'attrition dans laquelle il se trouve. Si on prend Dogs in the Vineyard par exemple, qui est toujours l'exemple typique qu'on va citer, au fur et à mesure d'un conflit, vous allez utiliser les ressources de votre personnage, vous allez arriver au bout des ressources de votre personnage, vous allez donc être tenté d'avoir des nouvelles ressources pour pouvoir continuer le conflit. Comment on a des nouvelles ressources dans ce jeu-là? On fait une escalade. Et quand on fait une escalade du conflit, on passe de la parole au point, du point au flingue, et le résultat va être très différent, et les choix moraux du personnage vont être très différents. Donc voilà ce sur quoi je voulais revenir. Alors est-ce que vous avez une autre chose à mettre en avant vis-à-vis de l'attrition, un jeu en particulier dont vous voudriez parler peut-être, que vous voudriez signaler On va faire le tour, Benoît.
Pas particulièrement. Moi, je pensais toujours à Star Wars parce que je pense toujours à Star Wars. Mais
on l'avait pas cité jusque-là.
Oui, voilà, c'est pour ça. Tout à l'heure, ça me venait à l'esprit que j'ai pas eu le temps de parole pour l'exprimer. Mais on a la jauge de blessure qui est historiquement, je pense, je sais pas, hein, y a peut-être eu un précédent, mais quelque chose qui me paraît très intéressant dans la logique où on va pas avoir des points de vie, mais on sort de cette idée-là pour avoir un truc qui est d'ailleurs repris après dans le monde des ténèbres et tout ça, hein, une jauge de blessure avec des adjectifs qui donnent des malus selon le niveau de blessure qu'on a. Et ça va entraîner un aspect narratif puisqu'on va considérer le personnage blessé, neutralisé, etc. Et il a le malus adéquat, donc le comportement du personnage en jeu va changer, le roleplay va être adapté au fait que le personnage est blessé. Donc on a une mécanique d'attrition résorbable, donc pour ça, moi je parlais aussi, enfin j'aurais aimé parler, mais c'est pas grave, de roulement, c'est-à-dire de logique de points qui se gagnent et qui se repèrent, donc dans un cycle qui s'installe, qui s'oppose avec l'attrition pure, je dirais, où là le point est perdu et l'est définitivement. Dans Star Wars, ça peut se référencer avec les points du côté obscur, c'est-à-dire que là on est beaucoup plus près de l'humanité dont on parlait tout à l'heure avec Vampire. Ou quand on prend un point de côté obscur, c'est globalement définitif. Il y a parfois potentiellement un moyen de rédemption pour en perdre, mais s'approcher du côté obscur, c'est quelque chose d'assez radical. Et du coup, je trouvais que ce jeu-là, qui est sorti dans les années 80, est déjà assez symptomatique des différentes possibilités qui s'offrent en jeu de rôle pour gérer l'aspect attrition, quoi.
Ok, Xavier ?
Moi, pour revenir un petit peu sur ta perception du GNS, si je reviens sur une proposition simulationniste, eh bien là, on voit clairement que si on veut s'immerger dans une proposition simulationniste de type survival ou de
absolument
type horror, eh bien l'attrition a toute sa place, hein, parce que on va arriver sur des huis clos, sur des ressources qui s'épuisent, et on est vraiment au cœur de la proposition simulationniste si on est dans des logiques d'attrition pour ces thèmes-là.
Il n'y a pas que ces thèmes-là. Si je prends un exemple, dans une des parties auxquelles je joue en ce moment, le système de jeu utilise énormément l'attrition, est complètement basé dessus en fait. C'est un système qui s'appelle Kinetic, qui est écrit par Sébastien Delfino, Wenlock, que vous pouvez retrouver dans les carnets ludographiques sur Radio Rollist. C'est au moins la troisième fois que je parle de Radio Rollist aujourd'hui, mon Dieu.
Et dans le prochain numéro des Chroniques d'Altaride, puisqu'il y aura une interview réalisée par Julien.
Absolument, oui, il va nous parler un petit peu de sa vision des carnets ludographiques et de différentes choses de ce point de vue-là. Bref, dans son jeu, le personnage perd de son potentiel jusqu'à ce qu'il puisse se reposer, ou jusqu'à ce qu'il fasse un certain nombre d'actions qui lui permettent de regagner son potentiel. Bon, je ne vais pas en parler plus que ça, mais du point de vue simulationniste, ce qui était très très intéressant dans ce jeu-là, c'est que on va prendre une scène qu'on a jouée dans laquelle on devait progresser dans une espèce de forêt un peu impénétrable. Il n'y avait pas de côté horreur dans cette scène-là, pas vraiment. Il y en a eu à d'autres moments dans le jeu, mais pas vraiment dans cette scène-là. C'était simplement le fait de progresser dans une forêt difficile et de rendre cette progression intéressante du point de vue de l'expérience de jeu. Et là, c'était rendu très intéressant parce que, au fur et à mesure que les personnages progressaient dans cette forêt, ils investissaient leurs ressources, ils perdaient leurs ressources, ils se fatiguaient. Et moi, j'ai vraiment ressenti la fatigue du personnage à travers l'évolution de ses caracs dans ce système-là. De plus, son système, il met en avant des réactions des personnages qui sont en gros leurs traits de caractère un peu négatifs qui vont ressortir pour regagner des points qu'ils ont dépensés pour faire leurs actions. Et c'était vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Ça permettait de s'immerger dans ce qu'était en train de faire le personnage, quoi, de façon très très efficace. Voilà, c'était juste pour élargir un peu ton exemple de système d'horreur, en fait, c'est tout, hein. C'était le simple but.
Et donc, alors si on passe peut-être plus à la proposition narrativiste, donc la proposition narrativiste, c'est bien proposer des dilemmes moraux aux personnages, quoi.
Ah bah, tout le monde n'est pas d'accord de ce point de vue-là, moi j'ai dit que c'est celle qu'on avait employée, d'accord. Et je fais le lien avec l'acception générale qui est justement de mettre en avant l'histoire dans la proposition narrativiste,
ouais,
en disant que pour moi...
C'est le propos de toute partie de jeu de rôle.
Oui, mais oui et non. Enfin, on ne va pas redébattre du sujet-là. Mais je disais que je faisais le lien entre les deux en pensant sincèrement qu'une bonne histoire, elle passait très souvent par des choix moraux intéressants.
D'accord.
Mais voilà.
Donc, du coup, je vais parler d'un autre jeu qui s'appelle Lady Blackbird.
Oui.
Et dans Lady Blackbird, on a des dés qu'on va pouvoir investir pour, pareil, faire des trucs de dingue. On en a 7 au départ, et puis petit à petit, on les perd. C'est-à-dire que quand on réussit ses actions, on les perd. Quand on les rate, on les conserve. Donc forcément, au bout d'un moment, on finit par réussir, donc par plus en avoir. Et le moyen d'en regagner, eh bien, c'est de prendre le temps avec les autres joueurs, de faire une petite scène en off où on va parler de ses relations, de ce qui s'est passé avant, faire un flashback. Et donc, on peut se retrouver au milieu d'une scène de poursuite infernale, de baston, où tout d'un coup, les joueurs sont à sec et on va se refaire une petite scène toute bucolique où on parle... De la dernière fois où on a bulleté ensemble et dans une maison de thé et c'est très rigolo comme l'attrition en fait va amener une rupture de rythme dans le jeu et réintroduire du narrativisme dans l'action.
Oui, c'est très intéressant. Lady Blackbird, je crois, qui est gratuit et qui est de John Harper, c'est ça?
Qui est de John Harper et qui est gratuit, ouais.
Voilà.
Me revient en mémoire un système peu utilisé qui est celui de James Bond RPG.
Oui, mais tu as déjà parlé, Benoît. On va laisser parler maintenant Sandra.
Les enchères dans James Bond, regardez, c'est sympa.
Voilà, on en reparlera peut-être après, mais pour l'instant, on va faire le tour de table, comme je disais.
En jeu qui gère l'attrition, je pense au nouveau jeu qui a été récemment kickstarté, qui est Torchbearers, qui est un RPG... c'est médiéval, c'est du gritty qui où il est très très dur d'obtenir ressources.
Oui, alors du gritty, du machin, ça veut dire quoi?
J'allais y arriver. Non, le gritty, c'est...
C'est un peu comme quand t'es aware, tu vois. Sauf que c'est gritty, quoi.
Tu me feras pas fuir avec ton
laisse pas Sandra parler, laisse Sandra parler.
Bah oui, mais elle veut pas.
Non, mais je vais réussir
alors,
à parler.
Non, le... pas dans le micro, parce que sinon je comprends rien.
Je suis devant le micro. Le gritty, c'est. C'est la notion de souffrir, en fait, en RPG, car il va être dur d'y survivre. C'est un RPG vraiment où les PJ ne sont pas forcément terriblement supérieurs à des PNJ, où la mort est rapide, la souffrance est rapide. Ça peut être traduit comme du dark survival.
Torchbearer, je crois que c'est un jeu qui est basé sur le système de Burning Wheel, c'est ça?
Si je ne me trompe pas, oui.
Ouais, donc il doit faire intervenir, je ne l'ai pas du tout lu. Hein,
il
mais
fait jouer des D6,
ouais.
Un pool de dés.
Et tes motivations sont importantes, c'est ça?
Tu as des motivations.
Donc à découvrir, ce qui a été kickstarté, c'est quoi ? C'est sa version française ?
Non, c'est la version anglaise qui a été kickstarté. Le jeu avec un système allégé est disponible pour à peu près $15 sur DriveThruRPG. Et sur le site officiel, on peut télécharger une campagne, une image du bestiaire, les classes. Enfin, on peut télécharger de quoi vraiment faire un kit d'initiation.
Voilà, ce qui s'en rapproche le plus en français, même si c'est un système qui partit de celui-là, mais qu'on est modifié, si je ne me trompe pas, c'est les Légendes de la Garde, qui utilise un système qu'on est assez proche. Mais je crois qu'il est pas mal modifié, mais c'est la base en tout cas du système. Et sinon, j'avais vu une vidéo qui faisait intervenir, je crois que c'est Luke Crane, le créateur, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble, qui faisait une petite démonstration de ce que c'était que son système Burning Wheel et la façon dont les motivations des personnages intervenaient. Donc ça peut être un complément d'information assez intéressant de ce point de vue-là. Tu confirmes, c'est bien lui ou c'est un autre ?
Là, je ne sais pas. Je sais que sur les dés, par exemple, cela se joue avec des dés 6.
Oui.
Les 4, 5 ou 6, ce sont des succès. Et donc ensuite, on voit le nombre de succès. On peut avoir des conditions, des marges. On peut relancer.
C'est un système assez...
C'est assez complexe au voilà. début. Mais il est vraiment... C'est un système qui est très punitif.
Et puis, il a la réputation d'être complètement imbitable. Parce que très très compliqué, mais apparemment on peut s'en sortir bien en apprenant le système.
Il peut tenir à peu près en 2 pages le système.
Bah, je ramène ce que j'ai entendu.
C'est de l'attrition alors si ça tient qu'en 2 pages.
Hey, bien sûr, Willem.
Celui des légendes de la garde est beaucoup plus long.
Hein, est-ce que tu as un dernier mot sur le sujet ? Est-ce que tu as un jeu à remettre en avant vis-à-vis du système d'attrition ? Sinon, c'est pas grave, on passe à la deuxième partie.
Non, en dehors de me dire qu'il faudrait que je lise beaucoup plus de systèmes de règles dont on parle et tous ceux que j'ai sur ma liste de trucs à lire, mais sinon, non, j'ai pas vraiment grand chose à dire.
Ok, bah écoute.
Non, gritty, c'est grit, c'est du gravier. Hein. C'est genre, tu t'éclates la gueule sur du gravier, c'est ce qui te prend aux tripes, c'est ce qu'il prend des tripes à faire, et voilà.
Oui, c'est tu souffres. C'est, ok. Tu as mal, tu sais que tu es là pour avoir mal.
Alors, attrition, autour de la table de jeu, fin de campagne, perte des joueurs. Alors, Willem, tu voulais en parler. Je te redonne la parole. Non, tu manges. Alors, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Qui veut en parler ?
Tout le monde mange.
Tout le monde mange. Je suis le seul qui ne mange pas. Alors, très bien. Ah, Sandra. Oui. Oh.
Non, fin de campagne, perte de joueurs à la fin. Non, souvent, c'est perte de joueurs au cours de la campagne. Souvent, ce sont des joueurs qui, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ne peuvent plus être régulièrement présents autour d'une table, ou alors le système les a lassés, la table les a lassés. Souvent, les MJ, de plus en plus, je vois des MJ qui, pour pallier au fait que les joueurs ne puissent pas toujours soit être présents, soit que les joueurs quittent, pour une campagne qui feront jouer à toujours un minima à 3 joueurs, ils prennent une dizaine de joueurs de disponibles au cours de la campagne afin de pouvoir toujours assurer une table de jeu constante, même si tout le monde ne joue pas tout le temps et n'est pas un personnage principal.
Alors, on a dit précédemment que l'attrition était intéressante à l'intérieur du jeu. Je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire qu'elle n'est pas forcément intéressante autour de la table de jeu. Comment est-ce qu'on lutte contre l'attrition dans une campagne de jeu de rôle ?
Alors, moi, c'est un rapport à la gestion du temps. Moi, j'ai remarqué que les campagnes que je tenais le plus longtemps sont des campagnes où on joue toutes les semaines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un jeu ultra régulier, ça tient. Si on commence à dire on va jouer tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, entre ces parties, il va y avoir des choses qui vont s'intercaler, qui petit à petit vont prendre de l'espace. Et on commence par jouer toutes les 3 semaines, après on joue tous les mois, puis toutes les 6 semaines, et puis 2 fois dans l'année. Et on finit par plus jouer, quoi. Donc moi, cette attrition, elle impacte vraiment au niveau du temps, quoi, de la temporalité des parties. Et si on veut se tenir à quelque chose, malheureusement, je sais pas, ou heureusement pour les gens qui aiment ça, pour moi la seule solution, c'est de voir le jeu de rôle comme n'importe quelle activité associative, c'est-à-dire que si je suis dans un club de handball, il ne me vient pas à l'idée de rater les entraînements si je veux jouer le week-end. Eh bien, c'est pareil. Si je sais que tous les vendredis soirs j'ai ma partie de jeu de rôle, je vais rien prévoir d'autre et donc je vais pouvoir enchaîner sur une base assez longue cette campagne-là. Mais si je laisse des portes ouvertes sur mes soirées des vendredis à autre chose, eh bien petit à petit, ça va se dilater, ça va prendre de la place et c'est ma campagne qui va prendre une claque dans la gueule.
Sandra.
Sur oui, le sport et le jeu de rôle, il y a quand même aussi une différence, parce que en licence sportive, quelle que soit la licence, les gens s'attendent à un résultat, souvent une notion soit de compétition, soit de bien-être mental, tandis que le jeu de rôle est purement social. Et on n'est pas forcément, les gens ne sont pas forcément tous les jours motivés pour faire du social, où la table peut avoir une ambiance qui décline. Il est plus dur de maintenir un entraînement régulier en jeu de rôle qu'en sport, puisque les résultats se ressentent moins. Au final, on n'a pas de tableau, on n'a pas de podium. T'as été le meilleur joueur à la table, félicitations.
Ah oui, mais qu'est-ce que ça fait du bien.
Oui, cela détend. Et, mais par contre, je suis tout à fait d'accord que plus la partie est régulière, plus elle a des chances de survivre longtemps.
Je dirais aussi que s'il n'y a pas de podium, c'est peut-être justement un gage de pérennité, de qualité par rapport. Parce que le côté « Ah merde, j'ai pas eu de coupe depuis des années, je suis nul dans ce sport, bah, je laisse tomber. » Alors qu'en jeu de rôle, il n'y aura jamais cette approche-là, dans la mesure où on est en coopération, on est justement dans un truc qui n'est pas compétitif, quoi.
Voilà. Mais il y a des fois, on t'a pas envie d'aller au, de la, d'ailleurs, la plupart du temps, t'as pas forcément envie d'aller au sport, et ça veut pas dire que tu vas donner une mauvaise force, performance si tu te forces. Mais bon, pardon, t'allais dire un truc, Xavier, vas-y.
Ouais, de manière générale, dans les jeux à somme nulle, il arrive un moment où forcément le jeu s'arrête. L'intérêt du jeu de rôle, c'est que ce sont des jeux à somme non nulle. Alors ça, c'est de la théorie des jeux.
Voilà.
Désolé.
Non, mais vas-y.
Un jeu à somme nulle, c'est un jeu où pour que quelqu'un gagne quelque chose, il faut que quelqu'un d'autre le perde. Et donc, voilà, typiquement, hein, c'est le grand exemple du jeu à somme nulle, c'est le poker. Hein. Pour qu'il y en ait un qui gagne, il faut qu'il prenne les jetons des autres. Et à la fin de la partie, il n'y en a plus qu'un qui a les jetons et il a gagné, quoi. Dans le jeu de rôle, c'est un jeu ce qu'on appelle à somme non nulle, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire perdre les autres pour soi-même gagner. Et donc, il n'y a pas d'idée de à un moment on a gagné. Donc forcément, on sort de toutes les logiques de compétition. Et forcément, la rémunération du jeu de rôle, elle se trouve ailleurs que dans l'idée de gagner ou dans l'idée de mesurer avec son voisin.
Oui, t'as aussi des jeux type compétitif à somme non nulle qui sont tous les jeux en coop, par exemple.
Oui.
Hein, ça marche très très bien. Et pourtant, t'as cet enjeu de gagner le jeu, mais tu ne joues pas contre les autres, tu joues avec les autres pour avancer dans ton jeu.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, pardon.
Oui, je t'en prie.
Non, j'allais dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, bon, j'ai plus à dire sur les calendriers, toute la vie à côté du jeu de rôle, mais c'est intéressant sur cette notion de fin, et justement, j'étais en train d'y réfléchir sur d'autres campagnes. Est-ce qu'il n'y aurait pas parfois des campagnes qui savent plus où s'arrêter et qui savent plus trouver une fin à l'histoire qu'on est en train de faire, en fait, comme une série américaine qui continue alors qu'ils auraient dû arrêter à la saison 2 et ils en sont à la saison 5, quoi.
Bah, évidemment, il y en a énormément. Je dirais même que dans mon expérience de jeu, j'ai plus de campagnes qui meurent par attrition autour de la table, finalement, que ce soit usure des joueurs, usure du MJ, de son inspiration, etc., que de campagnes qui se terminent réellement.
Mais est-ce que la fin est vraiment nécessaire ?
Je pense qu'elle apporte énormément de choses. Elle n'est pas forcément nécessaire.
En fait, et j'en ai rarement fait mon jeu de rôle, en fait, des fins.
Ouais, mais quand on en fait, c'est vraiment une super expérience. Moi, je suis d'accord avec Julien.
Ah ouais.
J'approuve également.
Vas-y, Sandra.
Une fin, quand ton personnage a vécu une campagne et que ça y est, c'est la fin, maintenant il peut devenir un PNJ ou il continue sa vie, tu ne vas plus manipuler ton personnage. Il y a quelque chose quand même, c'est ça y est, on l'a fait, on a réussi à aller au bout. Que ce soit sur des campagnes scriptées ou sur des campagnes non scriptées.
Laisser aussi la possibilité quelque part au personnage de continuer à potentiellement exister, même si ça ne reste que potentiel si on a arrêté de jouer, ça a un côté ouverture à la rêverie qui me paraît intéressant aussi. Pas inintéressant.
Je vais prendre ton exemple, Benoît, de MJ pour le proto-Fils des siècles, la campagne Fils des siècles générale. En fait, ce que tu avais créé, c'était une sorte d'hyper-campagne qui était composée de différentes campagnes. En fait, tu structurais ton jeu par saison, par campagne, qui était relativement indépendante, mais qui reprenait les mêmes personnages et l'évolution au fur et à mesure des personnages. Donc ta fin, finalement, tu l'avais très régulièrement. Oui. T'avais pas une fin ultime,
Voilà, puisque la fin ultime était inatteignable potentiellement, puisque les personnages étaient coup, immortels et que et qu'ils avaient toujours un avenir devant eux, à moins qu'effectivement ils se fassent.
Ouais.
Ce qui est traditionnel, c'est du picaresque en fait, en épisodique. C'est assez traditionnel en jeu de rôle finalement. Picaresque, non, ça se dit. C'est pas ça.
Picaresque, c'est plus intrigue à tiroir. Donc à l'intérieur de l'histoire, on va avoir d'autres histoires qui s'imbriquent.
D'accord, mais ça implique pas aussi un continu avec des montées, des descentes, des fins et des épisodes?
Peut-être, j'en sais rien du tout.
Oui, potentiellement, mais enfin la nature du picaresque, c'est la multiplication des intrigues imbriquées en fait.
Alors moi je peux parler de campagne terminée. J'en ai déjà parlé dans le podcast. Il y a une campagne à laquelle on a joué avec Morgane de Changeling époque victorienne qu'on a réussi à terminer, et c'est vrai que c'est une des meilleures expériences de jeu de rôle que j'ai eues, à la fois pour la campagne elle-même et parce qu'on a pu y mettre un terme en donnant une vraie fin avec un épilogue pour savoir ce que devenaient les personnages, mais le fait d'avoir une histoire bouclée est très intéressant.
Ah, je ne dénigre pas du tout cet aspect-là, et moi-même j'ai des très bons souvenirs de fin de campagne. Je dis juste que j'ai aussi de bons entre guillemets souvenirs, mais de personnages qui restent vivaces, qui restent potentiellement actifs,
oui,
et qui continuent quelque part à me faire rêver par le potentiel de narration qu'ils dégagent du fait qu'ils n'ont pas eu de point final à leur aventure.
Oui, mais comment est-ce que s'est passée la fin du jeu avec ces personnages-là?
Bah, ils sont pas morts au dernier scénar, en fait.
Ouais, mais justement, t'as eu un dernier scénar. C'était quoi le dernier scénar?
Bah, c'était pas forcément un scénar de fin, parce que on s'attendait à ce qu'il y ait une suite, et il y en a jamais eu, en fait.
D'accord. Donc, pour ton imaginaire, tu trouves que c'est intéressant de pouvoir, envisager la suite?
Je sais pas, je parle tout le temps de Star Wars, mais j'ai des tas de personnages à Star Wars qui, du coup, sont encore en vie, et je me dis, bah, tiens, peut-être un jour, je pourrais, avec un nouveau meneur de jeu, reprendre un de ces personnages-là et continuer à le faire exister dans la galaxie très très lointaine, quoi.
Pourquoi
pas. Il est toujours là-bas, quoi. Il m'attend.
Oui. Sandra?
Non, j'allais dire, j'ai un exemple de campagne sur du donjon. Nous avons fait toute une campagne. Lorsque nous l'avons terminée, nos personnages avaient leur vie, on continue de mener leur vie. Et lorsque nous avons repris une campagne qui se passait toujours dans les royaumes, eh bien le MJ nous a fait jouer les arrière-petits-enfants de certains des personnages on apprenait ce qu'il était devenu de nos PJ de la campagne précédente. C'était très intéressant à faire. Et c'était très original, on avait beaucoup apprécié.
On se recentre un petit peu, comment éviter que la campagne elle meure tout doucement par perte de personnages, etc. Xavier a parlé de régularité.
Ouais, c'est super important la régularité, et je dirais aussi au niveau narration, c'est la variété. Vous aviez, je crois Sandra et Xavier, parlé précédemment d'une campagne maléfique. Du coup, je crois que Xavier, tu avais dit au bout d'un moment, on tournait un peu en rond, et du coup on a arrêté.
Je suis intéressant que tu reviennes là-dessus. Moi, ça m'inspire du point de vue des campagnes écrites ou des campagnes émergentes. Quand la campagne est écrite, tu peux te retrouver au milieu du scénario où le jeu se délite et les gens se barrent. Quand tu es dans une campagne émergente, c'est plus facile pour moi, en tout cas en tant que maître du jeu, de me dire, attention, dans un ou deux scénars, il faudra que j'essaie de trouver un final, il faudra que j'amène vers quelque chose qui va pouvoir clore cet arc. On est beaucoup plus prisonnier d'événements scriptés quand c'est une campagne écrite par quelqu'un d'autre que quand c'est une campagne qui émerge à la table. De ce point de vue-là, il y a notre mini-campagne Apocalypse World,
oui,
où à un moment, je me suis dit, il faut que je les amène à quelque chose qui puisse boucler un petit peu le... Je me suis laissé une ou deux séances pour terminer le truc. Et ça m'était jamais arrivé avec une campagne écrite. Et quand t'as une campagne écrite et scriptée, eh bien, souvent, il arrive un moment où il se passe quelque chose de merdique en plein milieu. Soit que les joueurs en ont marre, soit que les disponibilités sont plus là, soit que il y a ce qu'on appelle un wipe dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que tout le monde se fait ramasser par les méchants.
Un TPK.
Et un TPK, ou un Total Party Kill en anglais, toute la table est morte. Et c'est souvent ça qui met un frein brutal et qui fait qu'on va pas terminer des campagnes qui sont scriptées, qui sont écrites, selon moi.
Dans le cas d'un TPK, tu as une fin.
Ouais, enfin, une fin qui n'est pas satisfaisante.
Enfin, ça dépend si tu joues à sombre.
Non, mais si t'as un TPK, genre t'as fait toute ta campagne, tu vas taper le grand méchant, tu vas taper Sauron sur le haut de sa montagne, et puis finalement c'était le grand combat final, le boss des boss de la super fin, et que les joueurs n'y arrivent pas et qui meurent de manière épique. Ça c'est une super fin. Par contre, si tu te fais ramasser la gueule à l'aube sur un pauvre camp moisi par une rencontre aléatoire de trop de gobelins alors que t'as pas eu le temps de réviser tes sorts de soins, eh ben c'est une fin qui est minable.
N'empêche que c'est une fin, c'est juste
certes,
dire.
Certes, mais il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, et ben pour la fin c'est pareil quoi. Ouais. Et donc pour moi un des gros effets de perte de campagne et d'intérêt de campagne, c'est malheureusement de jouer des campagnes écrites quoi. C'est plus dur d'amener une fin sur une campagne écrite.
Mais qui joue que d'amener une main.
Moi j'ai essayé pendant 30 ans, je mets des patchs, j'essaie de me soigner mais j'ai essayé pendant très longtemps.
D'ailleurs, vous ne trouverez aucune campagne pour Fils des Siècles.
Non, je suis juste en train d'en écrire une. Non, j'ai des super souvenirs de campagnes écrites. Enfin, genre, à Cthulhu, on a joué avec Sophie par-delà les montagnes hallucinées, une campagne de l'appel de Cthulhu.
Et tu l'as finie.
Et on l'a terminée. De A à Z, elle était formidable. Et c'était vraiment une super
expérience. Je suis super impressionné. La campagne à 800 pages, le pavé de la mort.
Je crois que c'est le plus gros supplément que j'ai jamais paru en France.
Mais elle est géniale.
On a mis deux ans à la
fin. Un lien. Ah, pardon, je sais pas si tu continues, Benoît.
Non, vas-y.
Non, j'allais dire, c'est intéressant ce que tu disais, Xavier, parce que du coup, je me demande s'il y a un lien entre le... Et toujours pareil, en dehors de parler du calendrier des gens, en dehors de ce qu'ils ont à faire en jeu de rôle, mais si les joueurs ont plus d'investissement qu'ils ont mis eux-mêmes à apporter des éléments et des pièces au scénar qu'on est en train de créer, qui est justement pas un truc écrit en avance que tu vois dans un bouquin, les gens du coup, les joueurs sont peut-être plus intéressés à continuer quoi.
Ouais, souvent les parties émergentes sont quand même beaucoup plus impliquantes que des trucs écrits quoi, où il faut que tu tordes soit les BG des personnages, soit ton histoire pour arriver à les agglomérer.
Moi, ce qui me gêne du coup, c'est que tu opposes fondamentalement une partie émergente, donc a priori une partie qui est générée par le meneur de jeu un peu au fur et à mesure des parties. Et une campagne en scripté qui serait dans un livre. Mais pour moi, le livre n'est qu'une base de réflexion, de travail pour un meneur de jeu. J'envisage mal un meneur de jeu jouer à la lettre la campagne qui se trouve dans le livre. Il a une marge de manœuvre. Ben, en tout cas, je l'invite à avoir cette marge de manœuvre. Et l'expérience que j'ai pu avoir de meneur de jeu qui joue texto ce qui est écrit dans le bouquin, et catastrophique.
Ça dépend ce qu'il y a écrit dans le bouquin. Je suis pas d'accord avec toi.
Ça dépend ce qu'il y a écrit dans le bouquin. Les bouquins qui sont sortis il y a plus longtemps avaient des scénarios qui étaient beaucoup plus linéaires.
Et du coup, d'autant moins.
Il y a plus de tendance maintenant à avoir des publications où il y a des sets de personnages, des sets d'événements, des lieux avec tout ce qui se passe. Et à l'intérieur de ça, tu peux mettre les lieux et les événements de tes persos. De ce que tu veux faire toi et t'aménages quoi au fur et à mesure.
Tout à fait. Du coup, tu aménages, tu vois. On a un livre qui va t'amener à jouer de manière à construire ta propre campagne et pas à jouer telle qu'elle est indiquée dans le bouquin, puisque du coup, dans le bouquin, elle ne te permet pas de base de jouer. Il faut que tu rajoutes un petit peu de ta matière à toi. Et donc là, c'est la manière d'écrire un scénario. Et donc là, on tombe dans le domaine favori en ce moment de Xavier.
Ouais,
comment écrire un scénario pour qu'il soit suffisamment.
C'est un bon. Je sais pas, pardon, Xavier, t'allais.
Non, rien de grave. Je pense que Julien essaie de nous recentrer sur l'attrition.
Un petit peu, mais j'allais dire aussi. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Le sujet est très, très intéressant aussi. Je pense qu'on pourra, ça pourra faire l'occasion d'un podcast entier, en fait, de parler des campagnes en général. Juste pour reprendre ce que je disais, quand je disais que ça dépend comment ta campagne est écrite, ça dépend de ce que l'auteur de la campagne met à l'intérieur. Soit il l'écrit comme un bouquin quoi, globalement hyper scripté comme vous disiez, etc. Mais il peut aussi prévoir un certain nombre d'espaces de liberté et donner des instructions sur la façon de lier les scénarios entre eux. Il y a beaucoup de campagnes qui ont pu être citées et qui sont bien faites de ce point de vue là. Et puis il y a aussi un autre plaisir, pour finir vraiment sur ce sujet, un autre plaisir de la campagne écrite, c'est d'arriver au bout de l'histoire, quoi. Sachant que l'histoire est écrite, c'est un plaisir de spectateur d'une certaine manière, mais c'est un plaisir qui existe aussi, y compris en jeu de rôle.
Juste pour en revenir au par-delà les montagnes hallucinées, ce que j'avais trouvé particulièrement intéressant dans cette campagne, c'est que justement les deux aspects dont tu parles, sont présents dans cette campagne, c'est-à-dire que globalement, les deux, trois premiers actes de la campagne sont très scriptés, sont assez narratifs, mais enchaînent des événements dans une chronologie qui est assez immuable. Et donc globalement, à peu près n'importe quel groupe qui joue la campagne va faire les mêmes choses à peu près au même moment. Et la phase finale, on va dire les deux, trois derniers gros chapitres de la campagne, sont très ouverts, posent un setting assez large dans lequel les personnages sont libres d'agir de manière complètement autonome. Et donc, du coup, là, l'expérience de chaque groupe de jeu va être extrêmement différente. Et j'ai pu entendre notamment un podcast qui se trouve sur Internet, qui reprend en audio la gestion de cette campagne. Et ils jouent, mais vraiment pas du tout pareil, en particulier cet aspect-là. Avec aussi la façon du meneur de jeu qui est très différente. Mais voilà, juste pour dire que un livre peut aussi en lui-même héberger plusieurs façons de présenter une campagne pour être adapté un peu à toutes les façons de faire. D'ailleurs, ta propre campagne Eclipse Phase, je crois, aborde ces différentes façons d'écrire la campagne et de la présenter aux joueurs.
Oui, effectivement, les premiers épisodes sont, enfin, le premier épisode est très très scripté pour donner un point de départ. Et c'est vrai que dans les épisodes suivants, je passe sur de la présentation d'une situation de départ, j'alterne un petit peu les différents modes. Voilà, il y a un scénario qui est plus sur le côté exploration, donc il y a une linéarité, mais qui est une linéarité géographique plus qu'événementielle. J'utilise effectivement différentes méthodes de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Ok.
Je pense aussi que pour que les campagnes puissent arriver à leur fin, il est important que le joueur sache qu'il va y avoir une fin. Lorsque la table commence un peu à s'essouffler, le fait de se dire dans trois séances, c'est la fin de la campagne, ça peut aider à remotiver certains joueurs à rester jusqu'à la fin ou à libérer du temps.
Oui, ça,
c'est le fait de se dire ceci, alors que la table, sinon, si on ignore la date de fin, on peut se dire je sais pas pour combien de temps il y en a encore.
C'est vrai que dans Fils des siècles, enchaîner les petites campagnes, on sentait cette envie d'aller au bout de la scène, de la période historique qui était présentée, ce qui est d'ailleurs accentué maintenant avec le système de destin où les joueurs ont un vrai objectif de campagne. Et du coup, il y a une motivation à aller jusqu'au bout. Et juste pour en revenir à l'histoire d'attrition par rapport au groupe de jeu qui s'éloigne au fur et à mesure, trouver en tant que meneur de jeu des motivations pour rendre chaque campagne mémorable et chaque campagne autonome par rapport aux précédentes. Moi, j'ai joué parfois pendant des années avec le même groupe de jeu et au bout d'un moment, effectivement, on a un peu l'impression d'avoir fait le tour des trames, des intrigues qui était proposé par ce type de jeu, notamment Star Wars, hein, puisque si je parle tout le temps de Star Wars, c'est que j'ai maîtrisé peut-être 15 ans avec la même campagne. Et en fait, au bout d'un moment, on avait à peu près fait n'importe quel profil d'intrigue possible. Du coup, au bout d'un moment, en tant que meneur de jeu, on est obligé de se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait ? Qu'est-ce qui va pouvoir faire naître quelque chose de neuf dans le jeu ? Et c'est de plus en plus dur, en fait.
Et vous aviez pas envie de tout changer? Moi, je crois que j'aurais envie d'essayer carrément un nouveau personnage avant d'avoir fait autant de temps dedans.
Ah, si, mais je changer de personnage.
Dire, quand même, mais...
Changer de jeu, tu veux dire, même.
Changer de personnage dans le jeu plutôt que changer de scénario.
Les personnages mouraient régulièrement et étaient remplacés par d'autres, mais l'environnement était, lui, persistant.
D'accord.
Je ne te voyais pas en MJ sadique comme ça, Benoît.
Je tue peu, en fait. Beaucoup moins qu'on ne le croit.
Ah bon?
Oui, non, il préfère torturer les joueurs que
c'est
les personnages. France,
c'est côté obscur, j'ai plusieurs techniques variées. Où je les rends impotents, c'est pas mal aussi.
Ouais.
Il y en a qui se marient, qui ont des enfants, merde, je suis humain aussi.
On va dire
d'ailleurs,
ça.
D'ailleurs, c'est aussi le mariage et les enfants, c'est une autre raison d'attrition dans la vie réelle.
Oui, dans la vie réelle.
Dans la vie réelle, absolument. Ouais, ouais.
Il faut interdire la vie privée aux joueurs. Ils n'ont pas le droit d'avoir une vie privée. Ils sont joueurs avant tout. Ils n'ont pas le droit de travailler.
C'est une blague que j'ai avec quelques potes. On parle de... Tiens, il y a mon Manus LXP qui vient de rentrer dans la pièce. Quand un enfant ou une épouse se pointe...
Ah bah bravo.
C'était un truc marrant pendant la semaine dernière, j'avais une nuit du jeu et tout le monde était en train de parler d'histoires de guerre, de finir des jeux à 6h, 7h du matin et moi je disais non mais moi je ne fais plus ça, je suis trop vieux, je suis fatigué. Et d'ailleurs c'était rigolo parce que la tablette avec laquelle j'étais, on n'était pas vieux. Mais j'ai fait mon scénar en 4 heures et on était extrêmement ravis de la session qu'on avait fait. On a commencé un peu tard, on a fini vers 2 heures du matin du coup. Mais c'est un autre truc au niveau attrition, au niveau rythme de jeu. Alors, il y a de la préparation et il y a ce bouquin là, préparation.
Never Unprepared.
Ouais, celui-là, ouais. D'autre part, la longueur des sessions de jeu, c'est un point intéressant que j'ai commencé à parler il n'y a pas longtemps avec plusieurs personnes. Je me dis que j'ai pas besoin de jouer jusqu'à 6 heures du matin pour avoir une bonne session de jeu non plus. Je suis content d'avoir une bonne session de jeu de 3-4 heures, voilà quoi.
Et ça nous ramène à l'attrition parce que, enfin, je veux dire, on le voit parfois à nos tables. Il y a des moments où on perd les gens, quoi. Ils s'endorment à moitié sur un coin de table.
On les connaît, ouais.
L'attrition de l'énergie.
L'attrition de l'énergie à une table de jeu de rôle. Et effectivement, gérer son rythme, peut-être pas faire des parties trop longues ou savoir s'arrêter quand vraiment on n'en peut plus. Alors, peut-être une attrition d'attention. Ouais.
C'est pour ça qu'on a inventé le café. Hein.
J'ai des joueurs qui finissaient jamais la partie, en fait. Ils finissaient toujours en dormant.
Ah, moi, j'ai des années et des années de jeu où finalement, ce qui se passait entre 2 et 3 heures du matin, je crois que j'ai des joueurs qui ne l'ont jamais vécu.
Voilà.
Par contre, ils prenaient le relais vers 3 heures. Ça se passait très bien. Mais je dirais simplement, si vous êtes jeune, que vous tenez la nuit et que vous nous écoutez, profitez-en. Ça durera pas tout le temps, malheureusement. Alors, oui. Profitez-en tant que vous pouvez. Hein.
L'âge, c'est aussi une attrition assez cruelle et ça ne se regagne pas.
Eh ouais.
C'est vrai.
Bon, je crois qu'on dérive. Je pense qu'on a fait le tour du sujet.
C'est une bonne conversation, en tout cas.
Ah, bah, très intéressante, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si je garderai tout, mais j'aime beaucoup.
Bon, donc on arrive au coup de gueule.
On arrive au coup de cœur et coup de gueule. Est-ce qu'on enchaîne tout de suite ? Est-ce qu'on se fait une petite pause ?
Bon, je crois qu'on est tous chauds, là, non ?
Ok, alors on va enchaîner tout de suite. Hein. On va pas permettre à l'attrition de nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Alors, qui veut commencer ? Coup de cœur, coup de gueule.
Allez, j'y vais.
Eh ben, vas-y.
Ouais.
Alors, coup de cœur, j'ai pas mal parlé d'Unknown Armies, donc je vais le garder en coup de cœur, parce que je suis super excité. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire une campagne et j'avais jamais réussi à faire vraiment une campagne. J'ai fait que des one shot et de faire découvrir l'univers du jeu. Et en plus, il y a une troisième édition qui se prépare en ce moment. Et le créateur du jeu a posté il y a juste 2 semaines pour dire qu'il faisait du playtesting et qu'il va pas tarder à lancer son financement participatif. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils font avec. Donc voilà. J'en ai déjà parlé. Donc c'est un système que j'aime beaucoup.
Super.
Et en coup de gueule, je vais choisir le deuxième Avengers que j'ai été voir il y a quelques semaines et j'ai trouvé ça. Et même si je regrette pas parce qu'il fallait quand même que j'aille le voir, mais c'était vraiment vraiment pas génial quoi. Sûrement, ils ont vraiment dépensé beaucoup de sous pour pas se fouler du tout au niveau scénar et personnage. Donc voilà.
Ok.
Vite fait.
Je te remercie.
Je prends le relais.
Ah bah Xavier, je t'en prie.
Alors mon coup de cœur, moi, c'est un petit jeu vidéo qui date de 2012, me semble-t-il, qui s'appelle Faster Than Light, qui m'a replongé dans les ambiances jeux vidéo années 80. Voilà, c'est pas un jeu en ligne, c'est un jeu tout seul, pépère, sur son ordinateur. Et donc on démarre à un bout de la galaxie avec un petit vaisseau. Il faudra la traverser en entier avec une flotte à nos trousses pour arriver à la scène finale, essayer de détruire le boss. Et donc tout au long de cette traversée de la galaxie, il faudra accumuler du matériel, de l'argent pour faire progresser son vaisseau. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à rejouer à ce petit jeu-là. Mon coup de gueule maintenant, il sera peut-être particulièrement injuste, parce que je regrette fortement que Morgane ne soit pas parmi nous. Donc je ne sais pas ce que tu as à faire, Morgane. Tu as sans doute une très très bonne raison de ne pas être là. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas que tu t'excuses, je ne veux pas savoir pourquoi tu n'es pas là, mais tu nous manques. Et les voix d'Altaride sans toi ne sont pas les mêmes. Voilà, donc mon coup de gueule, c'est de ne pas t'avoir à nos côtés ce soir.
C'est beau. Benoît, tu armes ton micro ?
Alors, moi j'ai 2 coups de gueule et 2 coups de cœur, alors je vais faire très vite.
Va.
Mon coup de cœur, c'est la série The Shield. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une série qui est sortie, je crois, au tout début des années 2000, et qui a duré, je crois, 6 saisons. Globalement, vite fait, ça parle de, d'un commissariat de police à Los Angeles, et ça nous montre un peu des flics aux prises avec le quotidien. Et on voit des ripoux, on voit des enquêteurs, des flics plus sur le terrain. Enfin, il y a un peu tous les niveaux, le commissaire qui gère avec la politique et tout ça. Et du coup, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que c'est une des premières à l'époque qui se lançait à fond dans les zones grises de la réalité, et qui présentait pas des héros, mais presque des anti-héros, mais pas non plus vraiment des anti-héros. On est dans vraiment quelque chose d'assez sombre, mais voilà, enfin vraiment c'est le gris. Et je pense que c'est une série qui a beaucoup à apprendre à un auteur de scénario de jeu de rôle pour poser des ambiances qui soient pas toutes blanches ou toutes noires, avec des gentils et des méchants en opposition, mais des situations merdiques en fait, où il n'y a pas vraiment de bonne solution et qui posent de vrais dilemmes, comme on en parlait dans un précédent podcast. Voilà, donc j'adore cette série, elle est super bien jouée, et elle vaut vraiment le détour. Y compris pour les gens qui sont pas particulièrement amateurs de séries procédurières ou ce genre de choses, parce que c'est pas le cœur du truc. Mon deuxième coup de cœur, c'est Julien, parce que je trouve que il prend un rôle de plus en plus grandissant dans le développement d'Altaride, et autant pour la revue que pour le podcast, bah évidemment, il est à la... qu'est-ce que tu fais? Voilà, il est central dans le développement du truc, et je dirais aussi dans ma motivation personnelle, et sa manière de s'impliquer, ça montre que qu'il y a encore des choses à inventer, des choses à faire pour continuer à avancer, et ça me motive pour continuer, et voilà, et tout ça ça vaut un grand merci, et j'espère que ça durera encore longtemps et que d'autres encore rejoindront Julien et moi-même pour continuer à développer, trouver des idées, parce que ça manque pas, franchement, il y a plein de choses à faire, que ce soit en audio, en papier, en vidéo, ou dans un tas d'autres domaines. Le jeu de rôle a besoin de gens qui ont envie de s'impliquer pour parler, pour faire connaître le loisir, et voilà, et poser des nouvelles bases. Voilà, on a eu des discussions un peu tout à l'heure, tous ensemble, autour des possibilités de développement qu'il pourrait y avoir pour le jeu de rôle. On parlait du colloque qui va avoir lieu bientôt sur le jeu de rôle dans la littérature, qui montre qu'il y a des horizons nouveaux qui s'ouvrent. Voilà, bah, Julien, il est parmi ces pionniers qui ouvrent un peu des voies. Et voilà,
n'exagérons rien.
Coup de gueule maintenant. Donc il y en aura deux, rapidement aussi. Le premier, c'est la culture geek. En fait, c'est pour le mot geek, en fait, la définition du geek, ça a réémergé en moi, on va dire, avec le récent festival de Geekopolis, qui était très sympathique au demeurant, mais qui met en évidence le fait qu'aujourd'hui, le mot geek est quelque chose, je dirais, d'un petit peu galvaudé, avec des côtés positifs, mais surtout, on va dire, voilà, ça veut plus dire grand-chose. Tout le monde aujourd'hui se revendique geek, sans trop savoir qui est geek avec toi, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les limitations de cette définition. Et je trouve ça dommage, parce qu'à la base, la culture geek avait un vrai sens, et qu'aujourd'hui, c'est devenu un argument un peu commercial qui dépasse complètement la logique culturelle qui en était l'origine.
Hipster. Tu es un hipster, Benoît.
Je suis un pur hipster.
Ouais, mais alors là, c'est tout un débat, parce que c'est qu'est-ce que tu voulais dire que ça voulait à la base.
Voilà. Non, non, pas de débat, coup de cœur, coup de gueule.
Voilà.
Pas de commentaires sur les coups de cœur, coup de gueule.
Sans doute que voilà, le geek effectivement est une notion assez floue pour que tout le monde puisse s'y retrouver, et quelque part, pourquoi pas, c'est tant mieux. Et puis mon deuxième mini coup de gueule, c'est les jeux vidéo sur smartphone. Alors vous qui avez aussi un téléphone tactile, mobile, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus de ces jeux qu'on peut installer gratuitement et qui se retrouvent avec des micro-paiements à tire-larigot et qui vous pourrissent l'expérience ludique qui se trouve à l'intérieur. Et ça me saoule de télécharger un jeu qui a l'air super cool et qui a un potentiel sympa et qui au final est totalement injouable tant qu'on n'a pas craché au bassinet pour le rendre vaguement intéressant. Voilà, donc revenons au jeu où on paye vraiment au début et qu'après on a une vraie expérience ludique sans qu'on vienne nous emmerder toutes les 5 minutes pour payer. Ces jeux, c'est même pas vraiment des jeux, c'est juste une espèce de publicité sur pattes, quoi. Donc voilà, aucun intérêt, et c'est bien triste que ça existe.
Un modèle de business très très fascinant, par contre, on peut en parler, parce que j'en ai l'expérience dans mon boulot, mais c'est encore une autre histoire.
Merci Willem. Sandra.
Alors, pour ma part, je vais commencer par mon coup de gueule. C'est aujourd'hui, pour le travail, j'ai dû acheter des choses sur Amazon. Et Amazon m'a tout de suite fait une super pub, puisque dans les derniers rayonnages où j'étais, c'était les livres. Et on m'a signalé que le nouveau livre Grey, de Fifty Shades of Grey, venait de sortir et que sûrement j'allais être intéressée par l'acheter. J'ai été par curiosité voir le top des votes. Il y avait Grey, il y avait le bouquin Enjoy Marie, ainsi que le bouquin Icon. Et ceci trustait le palmarès des ventes en livres, toutes sections confondues. C'est le même classement sur la FNAC. Donc tout ce qui est... livres, romans, nouvelles, essais étaient très 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 loin et c'est juste mon coup de gueule que je ne comprends pas pourquoi des livres de fans par des fans ou d'un niveau littéraire assez faible puissent truster le top des ventes et le podium de plusieurs sites. Et mes coups de cœur. J'ai appris que Tim Curry, qui est un acteur que j'adore, surtout pour avoir joué le rôle du docteur Frankenfurther dans le Rocky Horror Picture Show, pour avoir fait de nombreuses voix de doublage, pour avoir joué plusieurs rôles très intéressants dans de nombreux films, eh bien, il a reçu un Tony Award pour toute sa carrière artistique tout au long de sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que le Tony Award, c'est vraiment une récompense à ses côtés. Plus quasiment que les Oscars ou autres. C'est le monde du show, c'est le monde du spectacle. La cérémonie d'ouverture des Tony Awards est quelque chose à regarder chaque année. Et moi, j'ai un deuxième coup de cœur qui est Ghostfire, le groupe de musique. Un sublime album steampunk avec Nathaniel Stone qui est... et j'adore. Voilà, c'était tout.
Ok. Alors, niveau coup de cœur, y en a pas mal, notamment niveau musique, etc. Mais j'en ai déjà pas mal parlé ces derniers temps. Alors, on va parler de jeux de rôle. Finalement, le coup de cœur que je garde pour cette période, c'est Shan. Un jeu dans lequel je me suis replongé de façon un peu intensive ces derniers temps, avec l'idée d'en faire une campagne très bientôt. Et ce que je retiens de ce jeu, c'est que plus je lis ce jeu, plus j'y trouve des choses intéressantes. Le bouquin est hyper dense et hyper intéressant. On a déjà eu l'occasion dans les chroniques d'Altarid d'en parler, hein, puisque Benoît, je crois que tu avais fait une interview du créateur, Igor.
Oui, à plusieurs reprises dans les chroniques, on en a parlé, on a en parlé avec lui. Et puis moi, je suis un vieux joueur de Shan, puisque je jouais à la première édition il y a 20 ans maintenant sur Shan.
Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas ce jeu, allez le découvrir. C'est formidable. Ils ont fait une souscription sans passer par les plateformes de financement participatif et dans laquelle ils ont promis le jeu de base qui est sorti et 4 suppléments. Sur les 4 suppléments, il y en a un qui est quasiment terminé, un deuxième qui est en relecture, offerte en relecture aux gens qui ont participé à la souscription en PDF. Et vraiment, ça, pour l'instant, ça remplit ses promesses. C'est un univers très intéressant, c'est un système de jeu qui est, comme je vous dis, plein de richesses insoupçonnées au départ, qui utilise d'ailleurs aussi une forme d'attrition très intéressante sur les attributs des personnages. Coup de cœur intégral pour ce jeu, quoi. Au niveau coup de gueule, pas tellement de coup de gueule très précis cette fois-ci. Plutôt qu'un coup de gueule, une situation cocasse. Dans la vie, en dehors des podcasts, j'ai aussi un métier. Il se trouve que je suis enseignant. Et en tant qu'enseignant, j'ai vécu une scène plutôt rigolote à Geekopolis quand j'ai vu deux de mes anciens élèves costumés, médiéval fantastique, une sorte de magicien et un guerrier en armure de cuir et épée, qui sont tombés en arrêt devant le stand des candidats d'Altari des Fils des Siècles en me reconnaissant. Et étant complètement fasciné de voir que le prof qui les avait menés de la seconde à la terminale à l'époque connaissait un peu cet univers-là et appréciait cet univers-là. Donc depuis, j'ai d'autres élèves qui m'ont trouvé sur Facebook, qui m'ont demandé comme ami, avec qui j'ai expliqué que je ne les acceptais qu'à partir du moment où ils avaient terminé leurs études avec moi. Et donc voilà, finalement, la réputation geek commence à vraiment déborder depuis la sphère privée jusqu'à la sphère publique, mais c'est pas grave, je l'assume totalement. Et j'aimerais un jour peut-être faire du jeu de rôle avec eux. Qui sait, ça arrivera peut-être. Voilà. Et eh ben je pense qu'on va pouvoir
peut-être des initiations dans ton établissement potentiellement.
Peut-être un jour. Pour l'instant, je c'est pas trop le genre de la maison, mais c'est pas vivre, c'est pas du tout hostile hein, comme environnement, puisque j'ai quand même au moins deux ou trois collègues qui pratiquent. On s'est même fait une session de Star Wars nouvelle version entre profs, qui s'était plutôt bien passée. On peine à trouver des dispos pour faire la suivante. Hein. Encore une fois, cette foutue attrition calendaire qui nous gêne, mais qui sait, peut-être effectivement que on introduira ça un jour ou l'autre, mais je doute qu'il y ait beaucoup d'élèves intéressés. Ok, on dit au revoir.
Oui, au revoir tout le monde, au revoir chers auditeurs.
Là, merci à tous, hein, ça me fait plaisir de me joindre à vous et j'espère être là pour de prochains épisodes.
Eh ben écoute, merci beaucoup Willem, notre envoyé spécial depuis Perpignan. Merci Sandra, Benoît, Xavier. Et bah pour finir, attention à l'attrition, hein, continuez d'écouter les podcasts. Et bonne soirée.
Bonne soirée.